Ça y est, allez, voilà. Bonjour, eh bien il est 14 h, nous allons pouvoir commencer cette séance de conseil municipal qui se tient donc à huis clos, comme le recommande la préfecture, et les conditions sanitaires en vigueur jusqu'à demain, parce que c'est que demain on va passer dans une nouvelle phase le 15 décembre, mais qu'en attendant, on est toujours soumis aux mêmes règles sanitaires. Alors, c'est vrai que des fois on a un petit peu de mal à s'y retrouver entre les annonces qui sont faites à la télévision, les décrets qui ont été publiés. Mais enfin, la prudence s'impose à chacun d'entre nous, bien sûr, et il est essentiel qu'on puisse respecter, comme le prévoit le gouvernement, comme le prévoit la préfecture, l'ensemble des recommandations qui sont émises, et notamment, comme chacun le sait, l'accès aux ERP est impossible jusqu'à demain, et puis un certain nombre d'autres difficultés pour les gens qui aimeraient notamment profiter de cette séance de conseil municipal. C'est pour ça qu'on fait des efforts et on retransmet tout en direct sur Facebook, de façon à ce que les gens qui ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont conscients des conditions sanitaires qui sont essentielles de respecter, les gens ne peuvent pas se déplacer. Donc pour eux, on met en place une retransmission sur Facebook de qualité pour qu'ils puissent suivre en toute sécurité toutes ces délibérations. Je vous propose de commencer l'appel. Donc Émilie Roy va procéder à l'appel du conseil municipal. Allez-y, Émilie. Avec le micro éventuellement, ça serait parfait. Présent en tout cas pour Hervestasinos. Donc bien sûr, je propose que Émilie Roy soit secrétaire de séance, si personne n'y voit d'inconvénient. Donc Émilie Roy est désignée
Valérie
secrétaire de
Vianant,
séance.
Jean-François Plane, Cécile Gomez, Jean-Michel Perratou, Bérénice Bonal, Jean-Claude Véga, Agnès Biazuto, Pascal Campins, Magali Vincent, Christian Garnier, Martine Clopin, Jacques Paganelli, Patrick Roisse, Serge Venet, Chantal Jover, Isabelle Roger, Jean-Marc Illich, Stéphanie Assionne, Éric Galliano,
Présent.
Graziella Piras, Thomas Michel, Cédric Giner, Marine Desideri, Émilie Roy, présente, Denis Tendil, Armand Cabrera, Martine Cabot, Bernard Pezri, Éric Joffre, Marina Brandino, Lionel Riquelme, Valérie Pozzo di Borgo.
Merci, le quorum est donc atteint. La séance de conseil municipal peut donc débuter avec l'approbation du PV de la dernière séance du conseil municipal. Est-ce que vous avez des pas de remarques? Je propose de passer. Monsieur Pézri, allez-y. Prenez bien le micro de façon à ce que vous soyez entendu.
Oui, donc je réitère mon bonjour à mesdames et messieurs les élus. Bonjour, monsieur le maire. Donc deux remarques. La première, ça concerne donc cette séance à huis clos. Il aurait été souhaitable qu'il y ait une coordination entre votre position, la convocation à cette séance, qui n'était pas indiquée à huis clos. Donc bon nombre de personnes nous ont interpellés pour savoir si elle était publique. Nous avons répondu en toute bonne foi que oui, puisque ce n'était pas indiqué. Donc il serait bien d'accorder entre l'annonce qui est faite à l'accueil qui nous dit que c'est public, entre la convocation qu'on a reçue qui nous dit que c'est public, et lorsqu'on arrive en séance du conseil municipal, on est à huis clos. Donc c'est de votre responsabilité, j'entends les règles sanitaires, mais il faut arriver à accorder les violons. Deuxièmement, je vous signale que jusqu'à l'avenir, nous voterons contre les comptes rendus et les procès-verbaux de conseils municipaux. La raison est simple, c'est que indépendamment de la diffusion en live qu'il peut y avoir sur Facebook, nous trouvons que ces conseils municipaux ne traduisent en rien les raisons de nos votes. Nous votons pour, nous votons contre. Nous pouvons argumenter pour votre délibération. Nous pouvons argumenter contre. Uniquement ceux qui regardent Facebook, et je ne pense pas que ce soit la majorité des palétans qui la regardent, qui le regardent plutôt. Donc nous voterons contre tant que ces procès-verbaux ne seront pas plus étoffés. Ça se passe dans des communes limitrophes. Alors, on ne vous demande pas le texte entier, global, à la virgule près. mais au moins d'apporter des éléments qui justifient notre position, qu'elle soit pour ou contre. Nous sommes élus, nous l'opposition, nous avons notre place dans ce conseil municipal, et nous considérons, je considère que c'est un juste retour de tracer, et je ne vous dis pas in excesso, mais de tracer nos interventions, parce que ça nous paraît très léger. Monsieur le maire.
Oui, merci. Alors bon, effectivement, je vais peut-être retracer les raisons pour lesquelles on a décidé, en fait, ça avait été déjà le cas avant, hein, parce que les procès verbaux sur Internet, c'est pas d'hier. On a souhaité moderniser le fonctionnement de la commune sur le premier mandat, et ça se continue sur le deuxième. Donc on le voit notamment avec la retransmission en direct des séances de conseil municipal. Il n'y a rien de mieux que ça, en fait, parce que de toute façon, on peut vraiment. Ça donne accès à un plus grand nombre que des simples PV sur papier. Enfin, c'est des questions de génération, c'est des questions d'adoption ou pas des nouvelles technologies. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait un bilan sur la diffusion à la fois sur des bandes audio, sur les bandes vidéo des conseils municipaux, on a plutôt des très bons retours. On a plutôt des gens qui nous félicitent que ces séances soient accessibles facilement sur Internet, plus que sur du papier. Donc en plus, imprimer du papier, ça permet de sauver des arbres. Il y a aussi une dimension écologique à cette affaire. Et puis une dimension un peu économique pour une commune, parce que reprendre des bandes sonores, parce que qu'est-ce qui pense à se passer avant, il faut savoir, il faut que les auditeurs comprennent. En fait, il y avait des secrétaires qui reprenaient donc les bandes sonores et qui retraduisaient sur du papier ce qu'elle entendait sur la bande sonore. Bon, pourquoi pas? Je pense que ça, ce sont des méthodes qui appartiennent un petit peu au passé, mais après, chacun est vraiment libre de sa perception de la situation. Je peux entendre aussi qu'il y a des gens qui préfèrent avoir des supports papier, ça s'entend complètement. On va réfléchir à la question. Je crois qu'il ne faut rien s'interdire. À partir du moment où nos collègues de l'opposition nous font des remarques, je pense qu'il faut savoir en tenir compte, donc on va en tenir compte, et on va voir s'il y a moyen ou pas d'améliorer le système, à quel coût aussi, parce qu'il y a un petit souci économique derrière. C'est vrai d'avoir des secrétaires qui passent du temps à réécouter des bandes audio pour en faire un retranscript. En plus, je me souviens qu'après, c'était des discussions un peu interminables sur il manque une virgule, il manque une phrase, il manque un mot. Pourquoi pas? L'avantage des bandes audio et l'avantage des bandes vidéo, c'est qu'elles sont neutres. C'est-à-dire que c'est in extenso. Pour le coup, il y a vraiment tous les échanges qui sont dedans. On ne peut pas dire qu'il manque une virgule, qu'il manque un ton, qu'il n'y a pas assez de ton. Les gens apparaissent en réalité. On les entend clairement ou pas clairement. Moi, je suis clairement, mais je le dis après, c'est vrai, ça, c'est comme les couleurs, c'est comme plein de choses, c'est les goûts et couleurs, chacun son truc. Moi, je pense qu'une bande vidéo, qu'une bande audio, c'est mieux que du papier où on retranscrit en fait qu'une partiellement ce qui a été dit. Quand on écoute la bande audio, on écoute tout. Quand on regarde une bande vidéo, on regarde tout. Mais ce sont des choix. Mais on va tenir compte quand même de votre remarque. On va réfléchir un petit peu à tout ça, on va voir. Je note simplement que ça fait 6 mois qu'on travaille comme ça et que vous aviez voté jusqu'à maintenant dans l'affirmatif. Mais écoutez, je crois qu'il faut être sensible à toutes les remarques, en particulier celles de nos collègues de l'opposition. On va y réfléchir tranquillement. Oui, monsieur Pézeri, allez-y.
J'entends bien vos arguments. Alors de là, me faire passer pour un vieil élu de l'ancien temps. Je crois qu'au niveau calendrier, on n'est pas trop loin au niveau tranche d'âge. Et je peux vous confirmer que le 2.0 me correspond aussi. Mais je suis certainement moins dans la communication que vous avec le 2.0. Je vous remercie.
Monsieur Pézeri, je ne me serais pas permis d'y penser une seule seconde. Et ce n'est pas parce que je dis qu'il y a les nouveaux moyens de communication, qu'il vaut mieux utiliser ces nouveaux moyens de communication et que vous ne souhaitez pas le faire, que je vous traite de rétrograde ou quoi que ce soit. Loin de là, mon idée, vraiment.
Il est bien à l'entendre.
Alors, je propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, la première délibération consiste à donner l'autorisation au maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement pour l'exercice 2021. Et c'est Jean-Michel Perratou qui va donc prendre la parole.
Bonjour à tous. Autorisation du maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement de l'exercice 2021. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, d'utiliser les recettes et les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Sur autorisation de l'organe délibérant, d'utiliser dans la limite du quart des crédits ouverts du budget de l'exercice précédent. Donc, il est proposé au conseil municipal de permettre à monsieur le maire d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts en 2020 et avant l'adoption du budget principal qui devra intervenir avant le 15 avril 2021.
Pas de questions, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. La question numéro 2, ça consiste à me donner l'autorisation de signature pour une convention portant délégation exceptionnelle et temporaire de compétences en matière d'aide aux entreprises de la région PACA, de la région Sud en fait maintenant. Donc l'idée, c'était effectivement, vous avez vu cette opération bon d'achat, à laquelle d'ailleurs il y a eu l'unanimité du conseil municipal. Je vous en remercie encore. C'est important sur ce type d'opération de montrer l'unanimité du conseil municipal, au-delà de nos différences politiques ou de nos sensibilités un petit peu différentes. C'est un sujet extrêmement important pour l'ensemble de la commune, pour les consommateurs et encore plus pour les commerçants. C'est une opération qui fonctionne très bien. On est rendu à 1800 bons distribués. Donc les gens sont à la fois très contents de bénéficier pour certains d'un pouvoir d'achat complémentaire, pour d'autres de participer à l'effort de solidarité municipale et locale en faveur de nos commerçants, et pour une troisième partie, simplement de se rassembler autour d'un petit chalet, de retrouver des instants de convivialité qui manquent à chacun d'entre nous. Donc l'idée, pour parfaire la régularité juridique technique de cette procédure, c'est de demander à la région d'être autorisée à la région d'obtenir la délégation pour le temps de cette opération. On les a eu au téléphone. Ils étaient extrêmement satisfaits qu'on aide nos commerçants et qu'on les épaule dans cette stratégie. Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et qui vote pour ? Monsieur Pézry va poser une question. Je vous en prie, prenez bien le micro et parlez bien.
Je vais essayer.
Dans le micro.
Donc, juste quelques questions. Déjà, vous remercier d'avoir accepté notre demande de pouvoir participer à cette distribution de bons. Donc, quelques-uns de mes élus ont pu se rendre disponibles, donc je vous en remercie. J'aurais voulu qu'on aille un peu au-delà de cette délégation qui est temporaire, certes, mais qui est délégation. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux, enfin financiers plutôt, en direction des communes ? Est-ce que, par exemple, les bons d'achat, vous allez avoir une partie qui va être prise en charge par la région ou pas ? Est-ce que sur d'autres opérations que vous avez pu mener ou que vous avez envie de mener, la région vous accompagne techniquement, financièrement ? Voilà, un petit peu ce type de précision que nous aimerions avoir.
Oui. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris tout à fait la question. En fait, est-ce que c'est lié qu'au bon d'achat ou de manière plus générale sur la politique ?
De manière générale.
Alors, reposez la question, que je la comprenne bien et que je réponde très précisément.
Je pense qu'aujourd'hui, les ondes ne passent pas très bien, vous ne comprenez pas bien. Alors, le principe, c'est que voilà, donc, vous signez une convention qui vous permet d'avoir une délégation temporaire de la part de la région en direction de la municipalité, en fait des collectivités territoriales, pour accompagner les commerçants en difficulté. Donc, c'est une délégation temporaire, puisque normalement, c'est du ressort de la région. Aujourd'hui, vous avez lancé une première action qui suit d'autres actions qui s'appellent les bons d'achat. Vous allez en lancer d'autres. Vous en avez peut-être lancé d'autres au préalable. Donc ma question, de manière générale, mais qui concerne aussi les bons d'achat, est-ce que la région vous accompagne uniquement techniquement ou financièrement, ou les deux, sur l'ensemble de ces opérations ? J'ai été clair ?
Tout à fait.
Merci.
Mais d'ailleurs, vous avez été clair et vous avez répondu en partie d'ailleurs à la question. Vous avez demandé, est-ce que vous avez... fait d'autres actions en faveur du commerce et de l'attractivité commerciale et l'attractivité plus généralement du Pradet ? La réponse est oui, notamment au travers de toutes les manifestations et animations que nous avons créées ces précédentes années, que nous allons reconduire dès que cela sera possible. Donc oui, pour répondre à la question, oui, oui et oui. Nous avons déjà rendu de l'attractivité à notre commune, nous avons créé des animations, nous avons renforcé l'attractivité du centre-ville, des commerces, pas simplement du centre-ville, sur l'ensemble de la commune. On l'a fait sur le premier mandat, on continue sur le deuxième, comme vous le faites remarquer vous-même, et ça va continuer, bien sûr, on attend la fin de ces mesures sanitaires. Il faut savoir d'ailleurs que la façon dont ça s'est fait pour les bons d'achat, c'est assez intéressant. On se demandait un peu à quelle sauce on allait être mangé par le président de la République et son gouvernement concernant le déconfinement en douceur. Donc on avait bien sûr travaillé en amont sur les différentes possibilités pour aider nos commerçants. On a eu la réponse le mercredi soir quand le président de la République est intervenu à la télévision. On a toujours une petite différence souvent entre ce qui se dit le mercredi soir et ce qui est appliqué le vendredi. Mais on a été très réactifs puisque l'annonce du gouvernement s'est faite le mercredi soir. Et l'opération qui avait déjà été anticipée, qui avait été mûrie, qui avait été réfléchie, a été mise en place dès le vendredi. Je pense que 48 heures pour mettre en place une opération de cette nature, de ce type, franchement, réactivité. Il fallait être là. D'ailleurs, vous avez vous-même participé à cette réactivité, puisqu'on a été contraint de solliciter la tenue d'un conseil municipal en urgence. Vous avez tous répondu présent, à la fois en termes de présence et par vos votes. Donc vous avez accompagné ce mouvement pour, en faveur de nos commerçants. Et de façon plus générale, pour répondre à votre question, bien sûr que nous, à chaque fois que nous faisons des manifestations, que ce soit pour des animations ou autres, on demande toujours, on sollicite toujours les collectivités, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit la métropole, on demande toujours des participations pour être accompagné financièrement, pas toujours techniquement, parce qu'on s'aperçoit que finalement, techniquement, on arrive à se débrouiller plutôt pas mal au niveau local. Parfois, même d'ailleurs, quand on reste local, c'est parfois plus simple. Par contre, parfois, sur certaines animations ou festivités, on a besoin de l'apport de la métropole qui nous a aidés. Par exemple, le chalet, il faut savoir que le chalet pour les bons d'achat a été prêté par la mairie de la Garde. Donc, ce n'est pas simplement la région qui nous aide ou la métropole ou le département. Ce sont aussi les communes voisines qu'on a besoin d'eux. La solidarité a joué au niveau des communes. On a appelé Jean-Louis Masson qui s'est proposé de nous prêter un chalet pour mettre en place l'opération. Donc cette convivialité, cette aide entre collectivités, elle s'applique bien sûr au niveau régional, au niveau départemental, au niveau de la métropole, mais aussi au niveau entre communes. Donc on s'appelle souvent pour faire un petit point. Donc oui, on va continuer à renforcer l'attractivité commerciale de notre ville. Oui, on va continuer à renforcer l'attractivité de la commune. Et oui, on va s'appuyer sur les collectivités locales pour nous aider tant techniquement que financièrement quand c'est nécessaire. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie pour cette question numéro 2. Question numéro 3, c'est Magali Vincent qui va s'en occuper. Ça concerne le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale. Magali.
Alors bonjour, donc je vais vous présenter la délibération sur le fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique territoriale. Donc tout d'abord, ce fonds permet aux employeurs publics de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour des raisons de confidentialité, dans cette délibération, ne seront pas divulgués ni le nom de l'agent ni la nature de l'handicap. Donc, après diverses déductions liées au remboursement, il restait à la charge donc, de l'agent 1931 € pour acquérir cet équipement. Donc, une demande a été faite auprès de ce fonds d'insertion le 23 octobre et la commune a reçu l'accord pour cette aide à hauteur de 1 600 €. Donc aujourd'hui, il est demandé au conseil municipal de délibérer pour le versement de cette somme de 1 600 € à l'agent concerné.
Merci Magali. Avez-vous des questions, Monsieur Pézri?
Merci pour cette présentation. Donc nous voterons pour, bien évidemment. La seule remarque que je peux faire, c'est que vous faites allusion à une confidentialité, mais le nom de la personne est marqué dans la délibération.
Et entre les membres du conseil municipal, c'est pas sur Facebook.
Donc ça veut dire que c'est pas cette délibération qui partira à la préfecture. Donc ça veut dire qu'il faudrait bien que l'on vote sur une délibération en bonne et due forme, c'est-à-dire sans nom de la personne. Une petite remarque uniquement. Et nous sommes pour.
Alors donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 4, toujours Magali. Ça concerne l'élaboration et la mise en place des lignes directrices de gestion au sein de la collectivité.
Oui, donc concernant cette délibération, donc elle porte sur l'élaboration et la mise en place des lignes directrices de gestion au sein de la collectivité. Et plus précisément, le vote va porter sur les taux maximaux pour les avancements de grade. Cependant, pour plus de transparence, nous portons donc à la connaissance de l'ensemble du conseil municipal le projet des lignes directrices de gestion, qui est ni plus ni moins que la stratégie de pilotage des ressources humaines que nous avons choisi de faire sur une période de 6 ans, donc qui correspond à la période du mandat. Donc pour vous expliquer un peu la logique de ce document, tout d'abord, depuis 2014, La collectivité a modernisé les outils RH, enfin la politique RH, via un certain nombre d'outils tels que l'organigramme, le tableau des effectifs, les fiches de poste, etc. Puis la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique, a créé l'obligation de définir donc, ces fameuses lignes directrices de gestion pour que la politique de gestion des ressources humaines soit transparente, notamment du fait de la disparition des commissions administratives paritaires qui n'examineront plus les décisions en matière d'avancement et de promotion à compter du 1er janvier 2021. Donc le comité technique du 4 décembre a émis un avis favorable sur la présentation donc, de ces lignes directrices de gestion. Les membres de l'opposition, lors de la commission du 10 décembre, ont pu prendre pleinement connaissance de ce document et ont pu poser les questions qui leur semblaient utiles. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce document. Et donc aujourd'hui, le vote porte sur les taux. Donc Monsieur le maire demande au conseil municipal d'adopter les lignes directrices de gestion et les taux maximaux pour les avancements de grade comme suit. Donc pour la catégorie C, 80% des agents promouvables, catégorie B, 50% des agents promouvables et catégorie A, 50% des agents promouvables.
Merci pour cette présentation, Magali. Avez-vous des questions ? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. La question numéro 5, ça concerne l'octroi d'une protection fonctionnelle à un de nos élus qui va donc quitter la salle pendant qu'on va parler d'elle, ou ce qui lui est arrivé. Effectivement, donc il se trouve, vous savez comment ça se passe, la vie publique, c'est parfois pas facile. On l'a tous connu, plus ou moins, des degrés différents, parfois pendant la campagne, parfois avant la campagne, parfois après la campagne. Il y a toujours des gens qui vilipendent les élus pour des questions diverses et variées. C'est arrivé à une de mes élus, donc je la protège, comme c'est arrivé à d'autres élus qui ont été en leur temps aussi maltraités par l'opposition. En l'occurrence, là, ça n'a rien à voir avec le conseil municipal. Martine Clopin n'a pas du tout été maltraitée par l'opposition, mais c'est arrivé en son temps, et j'ai défendu un de mes élus, et je défendrai toujours mes élus, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le rôle du maire, c'est le rôle du maire de travailler avec son équipe. Et c'est le rôle de l'équipe, bien sûr, de soutenir son maire. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à protéger mon équipe, quoi qu'il arrive, envers et contre tout. Et là, il se trouve que Martine Clopin a été victime d'insultes, de menaces. Et je pense qu'à un moment, il faut quand même savoir s'arrêter. C'est pas parce qu'on est élu, on n'a pas plus de droits, moins de droits non plus que quelqu'un d'autre. On ne demande pas être plus protégé que les autres, on demande simplement avoir une vie normale. Martine Clopin, elle a été... attaquée, on va dire, pas physiquement, mais c'était dur. Donc elle a décidé de porter plainte, elle est venue me voir avant, me demander ce qu'elle devait faire, je lui ai donné mon point de vue. Elle a décidé de porter plainte. Alors nous, bien sûr, qu'on accompagne complètement Martine dans cette démarche, elle porte plainte, elle demande la protection fonctionnelle de la commune, et bien sûr, on lui donne. Donc ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de pouvoir voter cette protection fonctionnelle de manière à ce qu'elle soit défendue auprès des tribunaux, si ça va jusque-là. Est-ce que vous avez des questions ? Madame Cabot.
Bonjour Monsieur le maire, messieurs, mesdames les élus. Une petite question concernant donc, cette protection fonctionnelle. Je vais enlever le masque parce que je ne peux pas. S'il s'agissait des élus de l'opposition, qui malheureusement peuvent avoir aussi des injures comme tout un chacun et comme tout membre du public, est-ce que la protection fonctionnelle fonctionnerait aussi pour les élus de l'opposition, comme elle fonctionne pour les élus de la majorité?
Alors, il y a deux questions à votre question. C'est, techniquement, la réponse est bien sûr oui. Tout élu, chacun des élus peut bénéficier de la protection fonctionnelle. Et la deuxième partie, elle est plus politique. Est-ce que le maire donnerait protection à tous les élus? Bien sûr que oui. Quand on a eu besoin de vous, quand on a besoin de vous dans le conseil municipal, il y a certaines délibérations à 80-90%. Les délibérations, elles se votent à l'unanimité. Pour les bons d'achat, vous avez voté pour, vous êtes même venu nous aider dans le chalet.
Bien sûr, et j'en suis très contente.
Donc, si quelqu'un s'en prend à vous, mais je serai le premier à vous défendre, Madame Cabot.
Mais pas seulement moi.
Après Monsieur Pézri, pardon.
Merci, Monsieur le maire.
Je vous propose donc de passer au vote. À Monsieur Pézri, allez-y.
Oui, c'est juste une question de principe. Je n'ai pas bien saisi pourquoi il fait référence aux articles 21, 23, 34 et 21, 23, 35. Parce qu'il y en a, le 21, si j'ai bien compris en lisant les articles, le 21, 23, 35 correspond bien à la délibération. Par contre, le 21, 23, 34 correspond à des faits qui sont non intentionnels dans l'exercice de fonction. Donc, j'ai mal saisi le pourquoi de la référence à ces deux articles. Vous allez certainement me l'expliquer, mais je n'ai pas saisi ce pourquoi-là.
Bon, vous savez, on s'est posé la même question. C'est donc pour ça qu'on a fait appel à notre avocat qui nous a rédigé la délibération. Donc, je vous propose, si vous le souhaitez, hein, si vous le souhaitez, je peux poser la question à l'avocat et vous restituer la réponse. Hein. Donc, on posera la question à l'avocat qui nous a conseillé pour écrire la délibération. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Donc, Martine peut revenir pour participer. Martine revient. Elle ne veut pas revenir. Donc, Martine, votre délibération a été votée à l'unanimité. Question numéro 6. Donc, on va modifier une délibération. Alors, on avait compris que c'était un titulaire et un suppléant. En fait, ce sont deux titulaires et deux suppléants pour le parc national de Porquerolles. Donc, on va refaire ces délibérations. Donc, il y aura en fait Christian Garnier et moi-même en membre titulaire, Valérie Rialan en suppléant du maire et Jean-Marc Illich en suppléant de Christian Garnier. Donc, c'est notre nouvelle proposition. Je vous propose de voter cette délibération s'il n'y a pas de question au préalable. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 7. Ça concerne la délibération de la commission consultative des services publics locaux suite à l'élection d'un nouveau membre. Vous avez dû lire la délibération avec beaucoup d'attention. L'idée, c'est en fait de remplacer Mme Istas David par Mme Valérie Pozzo di Borgo, qui est présente avec nous aujourd'hui. Et la nouvelle commission se compose de Valérie Rialan, de Jean-François Plane, de Jean-Michel Perratou, de Pascal Campins, de Patrick Roise, de Bernard Pézeri, de Lionel Riquelme et de Valérie Pozzo di Borgo. Je vous propose donc de voter cette délibération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Alors, c'est une délibération qui peut se faire, bien sûr, à main levée si chacun est d'accord. Je pense que vous avez tous voté à main levée. Vous êtes tous d'accord pour que cette délibération se fasse à main levée et qu'on évite de faire passer l'urne. Délibération numéro 8, c'est pareil. Je vous propose de voter cette délibération à main levée si personne n'y est opposé. Ça évite de faire circuler l'urne. C'est la nouvelle constitution de la commission d'aménagement du territoire et développement durable suite à la démission d'une conseillère municipale. Là encore, c'est un peu la même idée. C'est que Mme Valérie Pozzo di Borgo va siéger à la place de Laetitia Istas. Donc la composition de la commission: Valérie Rialan, Jean-François Plane, Cécile Christelle Gomez, Jean-Claude Vega, Magali Vincent, Chantal Jauvert, Éric Joffre, Lionel Riquelme, Valérie Pozzo di Borgo. Pas de questions, j'imagine. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 9. Ça concerne l'adhésion de la commune de Cogolin au syndicat des communes du littoral varois. Donc, tout est dit dans le titre. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 10. C'est une question concernant les écoles et la caisse des écoles. Donc, la parole est à Cécile Christelle Gomez.
Bonjour à tous. Le fonctionnement de la caisse des écoles est d'une part très lourd sur le plan administratif et d'autre part ne présentait d'intérêt que par la participation financière des familles. La cotisation à la caisse des écoles n'étant pas obligatoire, les parents d'élèves ne souhaitent majoritairement plus cotiser. Donc, pour rationaliser le fonctionnement des services, il est souhaitable de transférer les activités de la caisse des écoles au budget de la commune. Le Code de l'éducation autorise la dissolution du budget de la Caisse des écoles lorsqu'elle n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant plus de 3 ans. De ce fait, et suite à l'avis conforme du comptable public assignataire, il n'y aura plus de vote du budget de la Caisse des écoles à partir de l'année 2021 et les dépenses seront transférées sur le budget de la commune. Pour information, le budget de la Caisse des écoles s'élève à 63 000 euros en 2020. Il concerne principalement les fournitures scolaires, le matériel pédagogique, les subventions pour les projets pédagogiques et les subventions pour les classes transplantées. Monsieur le maire propose au Conseil de se prononcer sur la dissolution du budget de la Caisse des écoles, dont la clôture est prévue en 2024, et sur la clôture de la régie de la Caisse des écoles. La suppression de cette régie prendra effet à compter du 31 décembre 2020. L'actif du mobilier et du matériel de la Caisse des écoles sera cédé à l'euro symbolique au bénéfice de la commune.
Donc, merci pour votre présentation. Question, Madame Pozzoli-Borgo.
Bonjour Monsieur le maire, bonjour mesdames et messieurs les élus. Une question que nous voulions vous poser concernant une commission ad hoc qui aurait été prévue en remplacement de la commission à laquelle participaient les personnes qui étaient des parents élus, des directrices d'école et des élus, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Est-ce que vous allez bien, en effet, remplacer, enfin, en tout cas, mettre en place cette nouvelle commission ?
Comme j'avais, on en avait déjà parlé à la commission éducation qui s'est tenue il y a une dizaine de jours, il y aura deux instances dans lesquelles on pourra parler du budget de la Caisse des écoles qui a été transférée au budget éducation. C'est tout d'abord bien sûr les conseils d'école auxquels participent les parents et les enseignants. C'est vraiment l'endroit idéal pour parler de ce budget. Et d'ailleurs, spontanément, les parents viennent davantage discuter de cela en conseil d'école qu'à la Caisse des écoles, où on avait du mal à faire venir les parents d'élèves. Et d'autre part, concernant la concertation avec l'opposition, j'ai proposé que, aux prochaines commissions éducation, il soit aussi discuté du budget de la Caisse des écoles, nouvellement donc transféré au budget éducation.
Et je me permettrai une remarque. Nous trouvons effectivement dommageable en fait que cette vie des écoles, enfin cette Caisse des écoles soit donc maintenant terminée. Nous trouvons ça dommageable car c'était un véritable lieu d'échange. Et nous trouvons dommage également que la municipalité n'ait pas poursuivi la démarche des municipalités précédentes qui en fait incitaient les parents à participer financièrement.
Alors, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, je propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. La question numéro 11 concerne une convention d'objectifs et de moyens avec l'association prélétane de protection Féline Miaou. Chantal Jauvert va prendre la parole pour défendre cette délibération.
Merci Monsieur le maire et chers collègues. Donc, convention d'objectifs et de moyens avec l'association Pradétane de protection féline. Excusez-moi. La ville du Pradé souhaite contractualiser le partenariat qu'elle entretient avec ses associations afin de formaliser le soutien qu'elle entend donner aux actions et projets associatifs en détaillant leurs engagements respectifs et, le cas échéant, mettre en conformité l'ensemble des conventions existantes et de fixer ainsi leurs objectifs communs. L'association Pradétane de protection féline représente une structure associative d'intérêt général impliquée dans son domaine d'intervention qui est la stérilisation des chats libres ainsi que les soins médicaux et leur nourriture. L'association sollicite le soutien de la ville pour son activité et entend s'investir activement au sein des actions menées sur le territoire dans le but notamment de limiter la prolifération des chats libres. À titre indicatif, cette subvention est de 1 500 euros. La convention proposée en annexe a pour objectif de définir les objectifs, les moyens et les conditions de collaboration entre la ville du Pradé et l'association Pradétane de protection féline dans le respect des engagements des deux parties faisant suite au projet présenté par l'association. L'association s'engage ainsi à mettre en œuvre son activité conformément à son objectif associatif déclaré et à réaliser les actions relatives à son projet tel que présenté dans la convention. Donc, il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens ci-jointe fondant le partenariat entre la ville et l'association Pradétane de protection féline et à prendre tout acte lié à la mise en œuvre de la présente convention. Merci.
Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Cabrera, avec le micro, s'il vous plaît, comme ça on vous enregistre. Non, vous allez prendre le micro, parce que sinon on ne peut pas vous enregistrer. Donc on souhaite que toutes les séances soient enregistrées, de manière à ce que les prédétants qui viennent sur Internet puissent avoir l'intégralité des propos qui sont échangés. Ça évite de faire des longs PV par écrit.
Merci. Pouvez-vous nous fournir le bilan d'activité et financier de cette association ? Merci.
Vous savez, alors qu'on fait des conventions d'objectifs et de moyens, c'est ce qu'on leur demande. Donc on ne l'a pas avec nous, mais sur demande, vous faites une petite demande écrite ou sinon on note la demande aujourd'hui. Et on sera bien sûr ravis de vous donner tous les éléments qui correspondent au statut de l'association. Alors tout ce qu'on a, nous, en fait, le dossier qui est donné dans le cadre de la signature de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association. Après, si vous avez besoin de détails sur le fonctionnement de l'association, ce que je vous propose, c'est de vous rapprocher directement de l'association pour obtenir les renseignements que vous voulez. Je crois que c'est une association que vous connaissez peut-être, parce que c'est une association qui est en place depuis un petit moment. Monsieur Pézeri la connaît bien aussi. Mais n'hésitez pas, nous, on va vous fournir les documents qui sont en notre possession. Les documents qui sont en notre possession, ce sont les documents qui concernent la convention d'objectifs et de moyens que nous avons signée avec eux. Maintenant, si vous voulez des renseignements complémentaires, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de cette association. Ils sont extrêmement sympathiques. Et je n'imagine pas une seconde qu'ils ne pourraient pas vous donner tous les éléments dont vous auriez besoin pour éclairer le choix de votre décision aujourd'hui qui consisterait à voter contre, à vous abstenir ou à voter pour.
Merci de votre réponse. J'ai déjà travaillé avec cette personne du temps où je travaillais à la police municipale.
C'est parfait. Alors, on va passer au vote. Ah, Madame Cabot.
Monsieur le maire, Madame Jauvert donc, a annoncé la subvention de 1 500 euros pour l'association donc, Protection Féline. Il me semble que dans le budget 2020, je suis peut-être rêvé, il me semble avoir vu 2 000 euros. C'est possible ?
Chantal, tu veux répondre ou... Je crois qu'ils ont demandé 2 000, on a donné 1 500. Je crois que de mémoire, c'est peut-être ça. Mais... Apparemment, on aurait donné la même chose en 2020 qu'en 2019, 1 500 euros. Mmh. On va regarder, vous savez ce que je vous propose ? On va regarder ça et on vous le dira précisément. Ouais. Oui, tout est sur le budget de toute façon. Hein, donc c'est annexé. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a une délibération qui a dû être prise cette année et qui sera prise l'année prochaine et qui a été prise en 2019 qui permettra de comparer chacune des subventions de toutes les associations du Pradet. C'est fait en parfaite transparence, en conformité avec ce que nous demande la loi. Vous le savez d'ailleurs, je crois que vous savez qu'on a tous travaillé en totale transparence et dans le respect des règles républicaines. Voilà, tout ce qui est l'octroi de subventions aux associations en fait partie. Donc bien sûr, on vous donnera tous les éléments dont vous avez besoin pour éclairer votre choix. Je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie pour tout. Délibération numéro 12, ça concerne à nouveau une convention d'objectif. Ça concerne maintenant Agnès Biasuto va prendre la parole avec son micro pour nous parler de la PAP.
Bonjour à tous. Donc là, il s'agit aussi d'un renouvellement de convention pour l'association CN... excusez-moi. APAOP, voilà. Pour l'association APAOP, donc Activité physique adaptée à l'obésité en pédiatrie, qui représente une structure associative d'intérêt général impliquée dans son domaine d'intervention relevant du champ de la prévention de l'obésité de l'enfant et de l'adolescent dans toute la France. Donc la convention proposée en annexe a pour objectif de définir les objectifs, moyens et conditions de collaboration entre la ville du Pradet et l'association APAOP dans le respect des engagements des deux parties faisant suite au projet présenté par l'association. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens ci-jointe fondant le partenariat entre la ville et l'association APAOP et à prendre tout acte lié à la mise en œuvre de la présente convention. Merci.
Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 13, ça concerne une convention objectif avec le club de voile.
Donc cette convention d'objectifs et de moyens avec le club de voile, donc CNPG, c'est aussi un renouvellement de convention entre la commune et le club. Donc cette association, bien sûr, représente une structure sportive d'intérêt général local très active dans son domaine, qui est la pratique des sports nautiques. L'association pratique également des activités physiques pour handicapés visuels et physiques. Donc, la convention proposée en annexe a pour objectif de définir les objectifs, moyens et conditions de collaboration entre la ville du Pradé et l'association, dans le respect des engagements des deux parties et faisant suite au projet présenté par l'association. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs et de moyens qui est jointe, fondant le partenariat entre la ville et cette association, et à prendre tout acte lié à la mise en œuvre de la présente convention. Merci.
Merci pour cette présentation. Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 15 concerne l'utilisation de locaux pour les activités culturelles. La parole est à Bérénice Bonal.
Tu en as loupé une.
Et bien sûr, je voulais voir si vous étiez attentif. Je vois que c'est le cas. Donc nous sommes à la délibération 14. Ça concerne l'attribution attribution complémentaire de subventions pour le club nautique, toujours.
Alors. Donc toujours pour le club CNPG, club nautique de la Garonne, donc faisant suite à une demande de l'association du club nautique du Pradé de la Garonne, il paraît opportun de lui accorder une subvention complémentaire afin de l'aider pour le paiement d'une partie de sa redevance pour l'occupation du domaine public maritime de 2020, redevance due à l'État. En effet, cette dernière a plus que doublé en 2 ans, ce qui met la pérennité du club en péril. Elle s'élève en 2020 à 17 758,65 euros. Contre 8 233 en 2018 et 13 706 en 2019. Le club a sollicité un dégrèvement à la DDFIP, notamment au titre de la baisse des recettes que les différents confinements ont générées, mais l'État a refusé. Il s'agit donc pour la commune de concrétiser une nouvelle fois son soutien actif au tissu associatif pradétan et dans ce cadre de permettre à cette association, qui accompagne la municipalité lors d'actions tout au long de l'année, de financer une partie de sa redevance dans un contexte économique difficile et de compenser le surcroît d'activité auprès des scolaires effectué en 2019. Cette mesure s'inscrit en complément des subventions globales initiées attribuées aux associations lors du vote du budget primitif. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral du 19 août 2020 accordant la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports relative à la base nautique de la Garonne, considérant que la commune du Pradé va établir une convention d'exploitation qui liera le club nautique du Pradé de la Garonne et la ville, il est ainsi proposé au conseil municipal de se prononcer pour autoriser Monsieur le maire à procéder à l'attribution de cette subvention de fonctionnement pour un montant de 10 000 euros et à prendre tous les actes subséquents nécessaires à cette mise en œuvre. Merci.
Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Tandil.
Pardon. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, concernant l'attribution complémentaire de subventions pour le club nautique du Pradé, la ville soutient cette association très active dans son domaine. La redevance du domaine public étant de 17 758, comme ça a été évoqué par Mme Biasuto en 2020, soit une augmentation effectivement très importante par rapport à 2018 et 2019. Ma question, notre question, l'aide qu'on va voter aujourd'hui, on est tout à fait favorable bien entendu, concerne une subvention du fonctionnement de 10 000 euros pour le club nautique, une subvention complémentaire. Serait-elle revue en 2021? Dans la synthèse 23, c'est-à-dire la note 23, nous y reviendrons à l'issue, vous citez le même montant que 2020, soit 17 758,65 euros. Ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être pas d'augmentation en 2021. Quels sont, et c'est une question, quels sont les critères de cette redevance pour l'occupation du domaine public générant une augmentation aussi importante ? Sachant que la direction départementale des finances publiques, sollicitée, que vous avez sollicité, a justement, pour un dégrèvement, a refusé. Merci.
Alors, Monsieur Demdil, c'est moi qui vais vous répondre sur votre question. L'augmentation de la redevance, elle est due à 2 facteurs. La première, c'est que la DDFIP a décidé de ne plus appliquer ses abattements passés en vertu pour les, à l'occasion des clubs, pour les clubs, en vertu des clubs. Donc elle a décidé qu'à partir de 2020, il n'y aurait plus aucun abattement possible pour les clubs sportifs. Donc 40% d'abattement il y avait jusqu'à présent. Le deuxième point qui justifie l'augmentation de la redevance, c'est que la DDFIP a régularisé une occupation effective du domaine maritime. Et effectivement, pour le club nautique en particulier, il s'est avéré qu'il y avait des surfaces qui étaient non comptabilisées, en particulier cales à l'eau, des cales de mise à l'eau et un garage à bateaux. Ce qui fait que l'ensemble de ces deux points justifie l'augmentation de la redevance, en particulier pour le club nautique.
C'est-à-dire qu'en 2021, il y aura une augmentation?
Non. Alors, nous avons eu un retour de la DDFIP. Pour 2021, il n'y aura aucune augmentation. La redevance sera exactement l'identique à 17 758.
C'est déjà
pour répondre à votre deuxième question.
C'est déjà un bon point.
Voilà.
Merci.
Je vous en prie.
Oui, de façon plus générale, j'en profite pour rebondir. On s'aperçoit que l'État est un peu désargenté en ce moment et il cherche des ressources par tous les moyens. On le voit au travers d'un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour assécher un petit peu les collectivités locales et pas seulement, et trouver des finances par tous les moyens. Là, malheureusement, c'est tombé sur le domaine maritime pour une de nos associations. C'est regrettable. On a négocié autant qu'on pouvait. On s'est battu pour essayer de... On peut pas traiter une association comme on traite un commercial. Mais bon, c'est le choix de la DDFIP, la Direction départementale des finances publiques. Ils ont aussi leurs contraintes budgétaires. On ne peut que le déplorer. Et nous, au final, on se retrouve à dépenser plus d'argent pour que nos activités nautiques continuent en baie de la Garonne. Monsieur Pézri.
Oui, je vous remercie, Madame Biasuto, pour les éléments de réponse. J'aurais donc deux questions subsidiaires à poser. La première, donc, si cette augmentation qui est passée à 17 000 euros donc, est pérenne, ça veut dire que l'année prochaine, le club nautique paiera aussi 17 000 euros. Est-ce que l'aide de la municipalité va être répétée, va être reconduite?
Alors, nous modulerons au coup par coup. Là, il s'est trouvé que nous sommes le club a essuyé des périodes de confinement qui ont bien entravé son fonctionnement. Donc ensuite, la commune modulera donc ses aides en fonction de la situation au coup par coup. On ne peut pas se projeter dans l'avenir et voir ce qu'il en est de l'avenir. Donc, mais il est clair que la redevance doit être payée par la commune, donc la DDFIP.
Donc question qui rebondit sur votre réponse. On vient de voter pour une convention qui ne faisait appel qu'à deux types de financement. Un financement sur prestation ou un financement sur investissement. Ne serait-il pas judicieux d'installer là-dedans, éventuellement, la possibilité d'une aide qui ne serait pas exceptionnelle, qui serait peut-être répétitive à des montants différents?
Oui, ben je pense que là, pour l'instant, on était sur le budget 2020, on est en préparation du budget 2021. Comme il y aura une commission des finances qui se tiendra, on sera ravis d'entendre votre point de vue. Il y aura un débat d'orientation budgétaire ou un rapport d'orientation budgétaire, comme on les appelle maintenant. Il y aura un budget qui sera voté. À cette occasion, on aura largement le temps de discuter, mais c'est effectivement une bonne question. Alors, ce n'est pas la seule décision de l'État qui nous met dans l'embarras. Celle-ci en fait partie. Nous, ce qu'on souhaite surtout, c'est maintenir un tissu associatif sur le Pradec qui est riche, vivant, en particulier, bien sûr, le club sportif de la Garonne. Ce n'est pas le seul. Je vois M. Denis Tandil, qui était en son temps président du tennis club, qui a très bien fonctionné. On a un tissu associatif qui est riche, qui participe à la convivialité de la commune. On tient à préserver ce tissu associatif, à le consolider. Donc, ce n'est pas nous qui allons taper 10 000 euros dans une association, certainement pas. Une association qui est importante, qui participe au rayonnement de la commune. Donc, l'objectif qu'on a, c'est de les aider, continuer à les aider, comme c'était fait sous les précédents mandats, continuer à les aider à vivre, à faire vivre notre commune, à aider les enfants à apprendre ce que c'est que de la voile, d'aller avoir le plaisir de se promener dans la baie de la Garonne. Donc, on a vraiment cet objectif. C'est de consolider notre tissu associatif. Donc, c'est vraiment l'idée. Après, les aspects budgétaires qui sont extrêmement importants, ça vient presque sur un deuxième plan. Il faut encore qu'on négocie avec la Direction départementale des finances publiques. Il faut qu'on voit dans quelle mesure on peut peut-être réduire un peu la zone ou pas. Enfin, on est très loin de ça pour l'instant. On voit bien que ce sont des décisions qui ont été prises un peu à la va-vite au niveau national, qui ont des répercussions importantes au niveau local, qui ont été mal évaluées au niveau national, que les communes paye le prix de ces décisions et qu'à un moment, on va quand même rediscuter avec l'ensemble des acteurs pour voir de quelle manière on peut amoindrir la facture et continuer à soutenir notre tissu associatif. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La délibération numéro 15, Bérénice Bonal, ça concerne donc une convention d'utilisation des locaux pour les activités culturelles de la commune avec la métropole TPM.
Bonjour à tous et toutes. Il s'agit de la convention d'utilisation de locaux pour des activités culturelles entre la commune et TPM pour le conservatoire sur son site du Pradé. Le conservatoire à rayonnement régional Toulon-Provence-Méditerranée est classé dans le réseau national des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique par arrêté du ministère de la Culture en date d'octobre 2015. Le site du conservatoire TPM au Pradé bénéficie depuis 2019 de locaux neufs dans l'enceinte du nouveau pôle culturel de la commune, lesquels sont parfaitement adaptés à ses activités pédagogiques et artistiques et à des activités culturelles. En complément, le conservatoire TPM est également amené à solliciter auprès de la commune l'occupation ponctuelle d'autres lieux ou espaces municipaux. De son côté, la commune peut avoir ponctuellement besoin de locaux supplémentaires adaptés ou équipés, tels par exemple que ceux occupés dans le pôle culturel par le conservatoire TPM. Afin d'encadrer ou de simplifier les mises à disposition ponctuelles de leurs locaux ou espaces respectifs, les responsables de la commune et ceux de TPM pour le conservatoire ont souhaité établir une convention pour en préciser les modalités. Il est demandé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'approuver la présente convention, d'autoriser le maire à signer le projet de convention, joint un annexe définissant les modalités pratiques de cette mise à disposition. Merci.
Merci pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. La question numéro 16 concerne un groupement de commandes avec TPM. Ça concerne les formations bureautiques en e-learning et en présentiel avec la métropole TPM. Avez-vous des questions sur cette délibération? Monsieur Pézeri.
Oui, donc juste une remarque, quand vous parcourez la convention, donc si on prend l'article 3 objet de la convention, la commune du Pradé n'est pas citée dedans. Donc il y a la liste de l'ensemble des communes et la commune du Pradé n'est pas citée dedans pour bénéficier de la prestation.
Tout à fait. Alors comme le son nom l'indique, c'est un groupement de commandes à laquelle participent toutes les communes de la métropole. Donc cette convention, donc, comme son titre l'indique en préambule, ça concerne la commune du Pradé. Ça concerne toutes les communes, et en particulier la commune du Pradé.
Oui, mais je vous dis que dans la convention, il n'est pas indiqué le Pradé pour bénéficier de... Je vais vous lire la phrase, puisque...
On va la rajouter. C'est très bon point. On va donc rajouter le Pradé dans la convention, de manière à ce que ce soit vraiment clair pour tout le monde.
Au niveau de l'article 3.
Merci. L'article 3, quelle page?
La page, je vais vous la lire. Page 4.
Page 4.
Et ça doit être ça doit être la dixième ligne.
Dixième ligne, très bien. On va rajouter le Pradé de manière à ce que ce soit tout à fait clair. On propose de passer au vote maintenant. Donc, qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Je vous remercie pour votre vigilance et je vous remercie pour votre vote. Délibération numéro 17, ça concerne le transfert à la métropole des biens relatifs à la compétence eau potable. Jean-Claude Véga.
Bonjour à tous. Effectivement, cette note explicative parle du transfert à la métropole des biens relatifs à la compétence d'eau potable pour la commune du Pradé. Le décret portant création de la métropole lui donne la compétence en eau potable et donc est transféré à partir du 1er janvier 2018. Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier utilisés pour l'exercice de la compétence transférée sont mis de plein droit à disposition de la métropole et à titre gratuit. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. Et il s'agit de 82 km de réseau, d'une station de captage et de 6 réservoirs et non, de 5 réservoirs et non pas 6, comme c'est écrit dans la note de synthèse. Pour les biens cadastrés, le transfert de propriété interviendra par acte authentique, lequel sera publié au service de la publicité foncière. Les frais d'acte seront pris en charge par la métropole. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et vu le décret portant création de la métropole et la compétence eau potable exercée depuis le 1er janvier 2018, vu le procès verbal de transfert annexé recensant les biens transférés au titre de la compétence eau potable, et considérant que les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le Pradé et utilisés pour l'exercice des compétences transférées sont mis de plein droit à disposition de la métropole, Considérant aussi le procès-verbal contradictoire de transfert des biens relatif à la compétence eau potable qui précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits. Considérant aussi que ces transferts se font en pleine propriété et à titre gratuit. Considérant également que le transfert de propriété interviendra par acte authentique, lequel sera publié au service de la publicité foncière. Considérant ainsi aussi que les frais d'acte seront pris en charge par la métropole. Considérant qu'il est précisé que certaines parcelles sont susceptibles de faire l'objet d'un découpage par document d'appantage visant à délimiter le périmètre immobilier utile au transfert de la compétence. Considérant que la métropole et la commune du Pradé pourront, en tant que besoin, prendre des actes subséquents en vue de préciser la consistance des biens dans la propriété en transférée, et après en avoir délibéré, on décide, l'article 1, d'adopter l'exposé qui précède, en article 2, d'autoriser la signature de M. le maire du Pradé du procès-verbal annexé relatif aux biens transférés pour la compétence de l'eau potable, et l'article 3, de valider les modalités de transfert des biens en pleine propriété précisées ci-dessus.
Merci pour la présentation. Avez-vous des questions ? Monsieur Joffre.
Bonjour à tous. Monsieur le maire, dans la note de synthèse que vient de lire notre collègue, vous nous expliquez que les biens à caractère mobilier et immobilier seront mis à disposition de la métropole dans le cadre du transfert de compétences sur l'eau potable débuté en 2018. Je ne reviens pas sur cette démarche de transfert qui est inéluctable. Mon questionnement portera sur le prix de l'eau au Pradé. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe aujourd'hui des tarifs différenciés sur le territoire de la métropole, liés notamment à la proximité de la ressource en eau, liés à la nature et à l'état de nos installations. Et donc, par rapport à cet élément, n'existe-t-il pas un risque de voir le prix de l'eau au Pradé augmenter sous une volonté de la métropole d'uniformiser les tarifs sur tout le territoire? Je vous dis ça car le Pradé est plutôt bien loti par rapport à nos voisins proches, grâce à une ressource en eau qui nous est propre. Je pense bien sûr au point de captage de la Fouxe. Alors, quelle sera votre position au niveau de la métropole à ce sujet? Voilà, je vous remercie par avance pour votre réponse.
Alors, la question du prix d'eau, c'est un... J'y vais. Vas-y, je reprends après.
Actuellement, le prix du mètre cube est à 2,09. La moyenne de TPM est à 2,10. Donc, effectivement, on est bien situé. Le prix de l'eau ne va pas évoluer jusqu'en 2022, puisque jusqu'en 2022, la DSP qui durait 12 ans a été prolongée de manière à créer une nouvelle DSP qui sera tenue par quatre villes, La Valette, Toulon, le Revest et le Pradé, et c'est cette DSP qui décidera du prix de l'eau à venir.
Je me permets également de rebondir. Effectivement, on est aujourd'hui sous appel d'offres, et le contrat avec le prestataire est à son terme, et il y aura un nouvel attributaire au mois de juin 2021 qui prendra effectivement début de mandat en janvier 2022. Il y a sans doute des investissements lourds sur le territoire de ces quatre communes qui vont être là et que donc la collectivité devra abonder. Je pense notamment au barrage de Dardenne ou encore à l'usine de La Valette d'eau potable. Est-ce que le Pradé, justement, ne va pas pâtir de ces investissements lourds vis-à-vis de ces remises en état qui sont nécessaires aujourd'hui?
Alors, le fait d'être regroupé en DSP sur les quatre communes que je viens de citer va permettre d'effacer un peu tous ces hausses de prix qu'on pourrait craindre à venir.
Voilà, c'était ma question.
Voilà. Okay. Si merci pour le maire veut préciser autre chose.
Non, mais je crois que tout a été dit. Merci Jean-Claude. Peut-être une petite précision. Je pense que la seule certitude qu'on a, c'est que si on n'était pas passé en métropole, je pense que pour le coup, le prix de l'eau aurait peut-être augmenté. On a une nombreuse... Je vois Christian qui a participé. Quand nous sommes arrivés, on avait des discussions assez tendues avec le prestataire, pas d'un point de vue humain, ça s'est toujours bien passé d'un point de vue humain avec eux, mais on avait des petits soucis contractuels avec eux. On était à la limite d'augmenter les tarifs, je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018, mais ça a commencé dès 2015. Je vous assure que si on n'était pas passé en métropole et si on n'avait pas bien géré le dossier, le prix de l'eau, il ne serait pas 2,09 aujourd'hui, il serait de mémoire à 2,25 ou 2,26, peut-être au-delà. Parce que à l'époque, il y avait en fait des, pour essayer de résumer la situation, il y avait des volumes qui avaient été revus, qui avaient été anticipés à la hausse et qui en fait n'étaient pas du tout en ligne. Donc en fait, quand il a fallu faire une clause de revoyure avec le prestataire, à juste titre, il est revenu nous voir en disant voilà, écoutez, on applique le contrat. Le tarif de l'eau est à, j'ai plus le chiffre exact, ça va être 2,35, 2,40, c'était assez fort. Et en fait, en discutant avec eux, on a réussi à ne pas céder à la pression. Et au moment du passage en métropole, on leur a expliqué que de toute façon, on allait relancer, il y a une DSP qui serait relancée au niveau de toutes les communes. Et chacun peut comprendre qu'on a plus de poids quand on se met avec des communes comme Toulon, Le Revest, ou toutes celles qui ont été citées par Jean-Claude Véga, et encore plus avec 12 villes au sein du métropole. On sera encore plus puissant pour faire baisser les tarifs de l'eau. Alors c'est vrai que le Pradet, il y avait une situation particulière où un tiers de l'eau qui est fournie au Pradetan vient du captage de la foule, qui permet de faire baisser les prix. Enfin, je vous rassure, les prix au niveau de l'échelle de la métropole, je pense qu'ils seront plutôt en mesure de faire baisser les prix qu'une petite commune comme le Pradet toute seule. Donc l'idée, c'est vraiment pas que les tarifs de l'eau augmentent, si on l'aurait déjà fait en 2017, comme la loi, comme le contrat aurait pu nous y contraindre. Grâce à la compréhension de nos partenaires, les titulaires de l'ESPE à l'époque, et grâce à la pugnacité de quelques élus, on s'est battu, on est passé avec l'avocat, on a fait ce qu'il fallait pour faire en sorte que cette augmentation du prix de l'eau n'ait pas lieu, elle n'a pas eu lieu. Maintenant, c'est une nouvelle histoire qui s'écrit, c'est une histoire avec la métropole, avec des prix d'achat qui sont beaucoup plus importants, avec des volumes beaucoup plus importants, avec des enjeux beaucoup plus importants, qui devraient faire qu'à mon avis, on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises et plutôt des bonnes surprises. En tout cas, la position de la commune, puisque c'est votre question, ça sera bien sûr de faire en sorte que les prix de l'eau n'augmentent pas, voire les faire baisser si possible, mais ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, j'en profite parce que nous posez la question aussi sur l'assainissement, les taxes d'assainissement. Il faut savoir que le taux d'assainissement est un des plus forts au Pradet, mais qu'il y a un lissage dans le temps qui se fait et toutes les communes de l'agglomération vont rejoindre le taux de la taxe d'assainissement qui est en vigueur au Pradet, qui aurait dû avoir un rattrapage depuis de nombreuses années. Ça n'avait jamais été fait, mais c'est en cours en ce moment parce qu'il y a un certain nombre de travaux à faire sur l'ensemble du réseau d'assainissement. D'ailleurs, il y a des travaux qui vont commencer avenue du Gérald Brosset, ça part depuis en gros le Montcalm jusqu'au feu. On va refaire tout l'assainissement en enfouissant des tuyaux à 3 ou 4 mètres de profondeur et en triplant la capacité de la pompe qui est située à la bâtie. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, faire beaucoup d'investissements, mais ça permet de ne pas mettre le réseau en charge quand il y a de la pluie, d'avoir un système d'assainissement de qualité, ce que tous les prédétants demandent, bien entendu. Je vous propose de passer au vote, si vous êtes d'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 18, Jean-François Plane, ça concerne l'autorisation annuelle de Tétra.
Bonjour à tous. La délibération concerne en définitive le renouvellement de la convention pour une durée de 3 ans de l'utilisation des réseaux Tétra mutualisés et des équipements terminaux associés de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Donc, vous avez certainement lu la convention qui est dans le dossier. La métropole donc de Toulon-Provence-Méditerranée nous fournit des équipements terminaux, un canal de communication dédié, 11 terminaux portatifs, 11 étuis qui vont avec. Et il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de la convention qui porte sur l'autorisation d'utiliser le réseau de radio Tétra mutualisé et les équipements terminaux associés de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et d'autoriser ainsi M. le maire à signer la convention annexée à tous les actes liés à sa mise en œuvre.
Merci. Monsieur Pézeri, question ?
Juste une petite remarque. Lors du 10 juillet, nous avions voté une délibération en avenant la convention qui permettait d'équiper la commune de 11 terminaux équipés de GPS en lieu et place des terminaux portatifs Sepura. Et la convention que nous allons voter fait référence à des terminaux portatifs Sepura et non pas des terminaux GPS.
Alors c'est très simple, c'est qu'ils ne sont pas encore en place, donc on ne peut pas se permettre de le faire apparaître. Nous sommes en ce moment, au niveau des écoles, en train de mettre en place le système d'alerte intrusion qui n'est pas encore terminé, qui sera terminé très certainement, j'espère, à la fin de l'année. Et il est indispensable d'associer un logiciel à tout ce, cet événement, disons, tout ce système pour que les radiotétras soient justement localisables. Donc dès que ce sera fait, à ce moment-là, on pourra effectivement les passer en géolocalisable.
Merci, pas de questions supplémentaires. Je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Alors, questions 19 et 20, ça concerne les façades de la commune, ce qui nous a permis d'embellir la commune, ça continue. Donc Valérie Rialan va prendre ces questions 19 et 20. La question 19, c'est un complément de subvention façade suite à une petite erreur matérielle.
Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc en effet, par délibération du 28 septembre 2020, la personne au 31 rue Lantrua a perçu une subvention de 4 239,59, donc correspondant à la prise en compte de 35% des coûts subventionnables. Et en fait, sa déclaration préalable avait été déposée le 13 décembre 2009. Elle aurait dû donc percevoir une subvention calculée sur la base de 50% du montant des travaux. Donc on vous propose de réparer cette erreur en lui versant le complément d'une valeur de 1 816,93 €.
Merci. Pas de questions sur délibération. Monsieur Pézri.
Oui, merci, Madame Galland. Donc, juste une remarque. Je pense, peut-être à tort, mais je pense qu'il aurait fallu peut-être définir dans la délibération qui avait été prise une date de départ de prise en compte de la demande. Parce que là, c'est une déclaration préalable qui a été déposée, donc, d'après votre délibération, au mois de décembre 2019. Qui a été accordé en février 2020, donc plus d'un mois après, ça veut dire qu'il y a peut-être eu des problèmes et je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc je pense qu'il faudrait peut-être, à l'avenir, indexer ça sur une date de départ de prise en compte, ou le dépôt de la déclaration préalable, ou l'accord de la déclaration préalable. Mais là, ça laisse un flou, ils ne sont pas contre cette délibération, mais ça laisse un flou qui peut être interprété de manière différente. Donc voilà la remarque.
D'accord. On en prend bonne note. Ce qui est important d'ailleurs, j'en parlais avec un membre de votre équipe, c'est on voit que la ville a été embellie, en tout cas avec cette opération façade qui a été un succès. Tous les gens qui étaient propriétaires de façade ont quasiment tous répondu à l'appel. Il en manque un ou deux ou trois. Enfin, il en manque pas beaucoup. J'en vois, je crois, la semaine prochaine, j'en reçois encore un dernier qui concerne la façade du Marigny, qui est une des plus grosses façades sur la place, qui n'a pas été refaite, mais je pense qu'ils vont la faire assez rapidement. Il faut savoir que de toute façon, soit ils la font, soit la mairie prendra la responsabilité de le faire à leur place. En tout cas, on ne peut pas laisser les propriétaires de façades en centre-ville ne pas respecter une obligation préfectorale. Quand même. Il faut savoir qu'à la base, c'est une opération préfectorale. Mais au-delà de l'obligation préfectorale, on en parlait pour les commerçants tout à l'heure, nous avons la volonté de poursuivre l'attractivité et l'embellissement de notre commune. C'est passé bien sûr par la mise en place d'un certain nombre de projets comme le jardin Lantrua, la mise en place du pôle culturel et pas seulement. On travaille maintenant sur ce prochain mandat à d'autres projets structurants pour la commune qui vont permettre de continuer à améliorer et à embellir notre commune. On est vraiment là-dessus. Mais l'opération façade a permis d'embellir notre commune et on va continuer sous tous ces aspects. Bien sûr, les opérations façades qui est dans sa phase terminale parce qu'il reste trois façades à faire et on va les finir. Mais au-delà de ça, c'est bien sûr de travailler sur les prochains projets qui ont permis de structurer la commune un petit peu mieux, de continuer à l'embellir. On est vraiment sur cette stratégie de renforcer l'attractivité de la commune. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Je vous remercie. La question 20, ça concerne la rénovation de la fresque de la mer à l'entrée ouest du Pradet.
Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Effectivement, il s'agit de vous proposer de financer la réfection de la fresque de la mer située à l'entrée ouest, au 465 avenue de la première DFL. En effet, comme le soulignait Monsieur le maire, dans la continuité du projet Cœur de ville et l'esprit du dispositif façade, la commune souhaite profiter de la réfection des façades des bâtiments supportant les fresques, de la mise en place, entre autres, des échafaudages permettant ces opérations et de leur éventuelle mutualisation pour restaurer, du coup, au coup par coup, les quatre fresques existantes au cœur de ville. Donc il vous est proposé de profiter de la réfection de la façade de l'immeuble dont je vous parlais pour procéder à la restauration de la fresque de la mer, avec bien sûr l'accord du propriétaire en question. Le montant de la restauration s'élèverait à 16 616,25 €.
Merci. Pas de questions. Madame Bondino.
Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, bonjour.
Dans le cadre du dispositif façade, il a été obtenu cette année une DP pour ravaler la façade qui supporte la fresque La Mer, qui a été réalisée pour le centenaire du Pradé. De fait, comme vous l'avez dit, cette fresque serait restaurée avec l'accord de l'artiste et bien sûr suite à notre vote de ce jour, vote pour lequel bien sûr nous sommes favorables puisqu'il s'agit là de préserver le patrimoine de notre commune. Toutefois, et dans un souci de conséquences financières que cela pourrait avoir dans le futur pour notre commune, nous souhaiterions vous poser quelques questions. À savoir, quel est le terrain d'entente qu'il y a avec l'artiste si des fois l'un des murs qui supporte l'une de ses fresques devait disparaître, pour quelque raison que ce soit ? Qu'en est-il de la propriété intellectuelle si des fois l'artiste devait disparaître ? Et de fait, est-ce que la commune pourrait racheter les droits d'auteur ? Merci par avance pour vos réponses.
Alors, de son vivant, effectivement, la propriété intellectuelle des fresques reste propriété de l'artiste. Donc, tant qu'elle est apte à réaliser les fresques, on s'adresse bien évidemment à elle. Après, je vous avoue qu'on va faire au coup par coup. L'idée de subventionner au fur et à mesure, on a tous les devis déjà, et l'idée, c'est quand même de le faire dans un temps raisonnable pour qu'on arrive à aboutir. Comme le disait Monsieur le maire, on va finaliser l'ensemble des façades, donc l'idée, c'est de s'en occuper également. Voilà.
Merci, Madame Rialon.
Merci pour vos questions. Pas de questions complémentaires, je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, c'est parfait. Ensuite, la question numéro 21 concerne une convention de subvention de production logements sociaux, la société Erilia.
Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Donc effectivement, il s'agit de verser une subvention à la société Erilia, d'HLM Erilia, pour l'acquisition en VFA de 28 logements sociaux auprès de Bouygues Immobilier, donc c'est Bouygues Immobilier, sur l'ensemble immobilier L'Ensoleillé. En effet, la commune et l'opérateur Erilia se sont rapprochés afin de définir les modalités d'une aide à la construction de logements locatifs sociaux sous forme de subventions foncières apportées par la commune à la société dans le cadre de l'article 55 de la loi SRU. Il est précisé d'une part que le montant de cette subvention foncière ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux est intégralement déductible du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune calculé sur la base des logements locatifs sociaux manquants. D'autre part, il est prévu que si l'opération, bien sûr, n'est pas menée à son terme, la commune pourra exiger le reversement du montant de la subvention versée. Et donc, le montant de cette subvention est de 320 000 euros. Je vous remercie.
Merci. Des questions ? Monsieur Pézeri.
Merci pour votre présentation. Alors déjà, je tenais à vous remercier parce que le calendrier veut que nous sommes au 20e anniversaire de la loi Jospin, donc qui a instauré cette loi SRU. Donc c'est quand même assez symbolique de parler de cette loi aujourd'hui. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vous avez déclaré dans la presse, ce que vous avez déclaré dans le Prademag. Je crois que vous savez pertinemment que je suis sur la même longueur d'onde concernant les 20-25% sur la commune du Pradé. Je pense que c'est totalement irréalisable par rapport à l'espace contraint de la commune, par rapport aux contraintes naturelles, contraintes de protection que vous évoquez. Je l'ai toujours dit, je répéterai toujours. Donc cette loi devrait être revue, même si elle fête ses 20 ans aujourd'hui, pour arriver à s'adapter de manière beaucoup plus macroscopique au niveau d'une métropole et d'arriver peut-être à avoir des projets plus métropolitains que locaux, ce qui éviterait les dérives dans les deux sens, des communes trop socialisées, même si ce n'est pas le terme que je devrais employer, ou des communes où le logement social est chassé parce qu'on n'en veut pas. Donc je pense que d'avoir une réflexion pour avoir une action plus macroscopique serait intéressante. Je pense qu'il y a d'autres solutions à apporter que la construction, parce que dans chacune de vos interventions, vous évoquez la construction. Oui, certes, on ne peut pas construire ad vitam aeternam, mais il y a d'autres possibilités. D'autres communes environnantes le font, donc sous différents types de projets. Vous avez une commune comme Sifour qui fait le bail réel solidaire, donc qui permet des gens d'accéder à la propriété, mais à ce que le bailleur ou la commune garde le foncier à sa propriété. Donc je crois que c'est intéressant. Vous avez aussi la possibilité d'accueillir du logement social étudiant, qui permet aussi de rajeunir la population, de répondre à certaines questions que vous posez dans des délibérations plus en amont. Et ensuite, la seule chose que je voudrais vous dire, parce que bon, la loi SRU, je crois que toutes les communes la subissent depuis l'an 2000, à tort ou à raison, l'accompagnent à tort ou à raison, Bon, la seule chose qui me déplaît dans votre argumentaire, c'est que systématiquement, vous mettez en opposition ce type de logement avec la défiguration du Pradé et de son patrimoine. Je pense que, au-delà, et je ne dis pas qu'il faut construire à tout prix, je ne dis pas qu'il faut forcément construire, mais il y a d'autres solutions. Créer des conventionnements avec des bailleurs privés pour arriver à loger à un tarif social, ça leur garantit un loyer pendant 9 ans. Faire le bail réel solidaire, avoir des logements étudiants qui pourraient servir aussi dans certains cas. Voilà, je crois qu'il y a des solutions qu'il faut aller chercher et sortir de la tête des gens que c'est forcément que de la construction, ça peut être de l'occupation autre de l'espace. Donc moi, ce qui me déplaît dans votre approche systématique, c'est cette opposition entre le logement social, moi je préfère parler du logement pour tous, à une défiguration du Pradé et du patrimoine. Je crois qu'autour de cette table, aucun d'entre nous ne veut défigurer le Pradé et son patrimoine et veut respecter les Pradétans.
Personne ne conteste la nécessité d'aider les publics les plus en difficulté. Personne. Et cette aide, elle passe soit par le CCAS pour un certain nombre d'actions sociales, elle passe aussi par le fait de pouvoir loger les prédétants qui en ont besoin. Je crois que personne ne peut contester ça. Ce qui est contestable, c'est la loi qui s'est durcie dans le temps et son application, comme vous l'avez dit, je suis content de savoir qu'on est en phase sur le sujet, qui est impossible sur certaines communes, sur certains territoires, dont le Pradé. Pour les raisons que vous avez évoquées, je ne vais pas revenir dessus. Après, sur les possibilités qui sont laissées à une commune pour se rapprocher des 25% qui sont intenables. Donc tout le monde a compris que c'était intenable. Oui, l'accession à la propriété, c'est le rôle du BRS, en fait. Le BRS, c'est le bail réel et solidaire qui est en place depuis peu de temps, en fait. Ça a été décret d'application, je crois que c'est 2018. Donc il y a un bailleur qui a fait ça qu'on a rencontré il y a 3 semaines pour parler avec lui de la mise en place d'un BRS sur le Pradé. Donc on a un projet en BRS sur le Pradé. Il a fait un premier sur le Sifour. Donc on a laissé faire ce projet sur Sifour pour voir comment ça se passait. On a discuté avec le maire de Sifour, Jean-Sébastien Vialat. Ça se passe plutôt bien. On a rencontré ce promoteur. On va essayer d'en mettre un en place sur le Pradé. Mais il faut savoir qu'on est contraint. Parce qu'on a déjà fait des propositions. On a déjà fait des propositions à la préfecture pour mettre en place, notamment sur l'ancien pensionnat, de l'acquisition pour les jeunes. C'est pas possible. La préfecture nous a empêchés de le faire. Ils se sont opposés. Donc oui, rénover par exemple, un des exemples, rénover le pensionnat pour laisser des prédétants ou des jeunes couples s'installer en acquisition, on est totalement favorable, mais juste que l'État ne nous laisse pas faire, parce que la loi ne le permet pas pour les communes qui sont carencées. Alors, il y a cette nouvelle possibilité de faire un BRS. On va voir si la préfecture nous autorise à le faire. On n'en est même pas certain. Si on se dit que si ça a été fait à Sifour, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas fait au Pradé. Mais enfin, quand même, ça a été le bras de fer. Ça a été le bras de fer. Donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous le savez. Vous le savez. Vous avez été maire 2 ans. Vous avez été à l'urbanisme pendant pas mal d'années. Vous savez très bien comment ça se passe. Très bien. Aussi bien que moi. Aussi bien que Christian Garnier. Aussi bien que Valérie Rialan. Donc, la loi s'est durcie dans le temps. La pénalité qui était de 150 000 euros, elle est passée à 328 000 euros. Ils parlent de nous mettre 600 000 euros de pénalité. Alors, ils ont fait le coup avec le club, avec l'AOT, à nous prendre un peu de pognon là. Maintenant, c'est avec la loi SRU, parce qu'on fait des chèques de partout, c'est bien. Mais enfin, à un moment, il faut trouver l'argent. Donc, on trouve l'argent dans les collectivités. Baisse de DGF de 1,2 million par an, depuis 2016. Loi SRU, 600 000 euros. C'est 2 millions d'euros qui sont pris dans les caisses des contribuables pradétans chaque année. Sur un mandat, c'est 12 millions d'euros. C'est une école. L'école Pagnol qu'on va quand même reconstruire. Mais quel effort financier, quel effort financier pour les communes comme les nôtres? Quel scandale. C'est abusif. Abusif. Ils parlent de lui mettre 400% de pénalité au Pradé. Mais franchement, c'est abusif. C'est abusé, c'est abusif. Alors oui, on veut faire des choses. On veut loger le Pradé temps. Il faut savoir aussi qu'on n'a même plus les attributions de logements sociaux ne se font même pas faire, c'est même plus la commune qui décide maintenant. La préfecture a repris les quotas. Donc au final, qu'est-ce qui nous reste? Pas la carotte, on ne voit que le bâton. Entre la carotte et le bâton, nous on voit que le bâton, on ne voit jamais la carotte. On paye des indemnités, on ne donne plus les attributions, on ne peut pas faire bénéficier les jeunes prédétants de logements qu'ils pourraient acquérir sur du patrimoine communal. Et alors, vous parliez d'autres méthodes pour faire rentrer des logements dans le parc social. Oui, c'était fait dans quelques communes, c'est fini ça aussi. Au lieu, le faisait, terminé. l'État ne le permet plus. Ils ont durci la loi, monsieur Pézri, au fil des ans. Hollande avait commencé, Macron finit le boulot. Ça durcit la loi, ça durcit les conditions, ça durcit les pénalités. On vient piquer dans la poche des prédateurs. Ils ne font pas autre chose. C'est un impôt ils n'osent pas dire que c'est un impôt. C'est un impôt pris sur les contribuables prédateurs. Ce n'est pas autre chose. Alors voilà ce qui se passe. Ils ont durci les conditions d'attribution. Ils ont durci les conditions. Il faut savoir aussi que la préfecture nous a annulé des projets ou qu'il y a des recours. Alors personne ne conteste la nécessité d'aider les publics en difficulté. On le fait. Je fais des permanences tous les 15 jours en mairie du vendredi. Plein de gens viennent me voir avec des besoins. Quand on peut répondre, on peut répondre. Mais moi, je voudrais pouvoir loger mes prédateurs en priorité. Des jeunes qui ne peuvent pas acheter, il faut pouvoir les aider, ces gens-là. Au travers du BRS, on va mettre un BRS en place auprès des parties des premières communes à le faire. On est en amont, on est en amont là-dessus. Et ce n'est pas les pénalités SRU, ce n'est pas les carences, ce n'est pas tout ça qui nous font avancer. C'est notre volonté d'aider les publics en difficulté. Et ce n'est pas nous prendre des coups de bâton en permanence de la part de la préfecture, ça ne marche pas comme ça. Ça se passe bien avec les services de la préfecture, sauf là-dessus. Ce matin, on était en bureau métropolitain avec tous les maires de la métropole. On a tous les 12 le même discours. Monsieur Castex, le Premier ministre, vient vendredi à Toulon. On va le recevoir. On va lui expliquer. Il paraît qu'il faut territorialiser. Il paraît qu'il faut écouter les communes. Il faut écouter les collectivités. Ah bon? Franchement. Il nous annonce les choses le mercredi soir à la télévision qu'on devrait faire la semaine d'après. On n'a pas les décrets d'application, on n'a rien. Il n'y a pas d'écoute des territoires. C'est fini. Il n'y a plus ça. Les députés et les sénateurs, ils n'ont jamais été ni maires ni élus dans les conseils municipaux. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils n'ont aucune conscience des contraintes territoriales. Donc on se retrouve avec des assemblées fantômes à Paris qui prennent des décisions. Il faut savoir que la commission qui décide des mises en carence des communes et des pénalités, la commission est devenue nationale. Ce n'est même plus une commission régionale ou une commission départementale. Tout est fait à Paris, tout est décidé à Paris. Vous avez parlé de M. Jospin. Oui, ce sont des lois qui ont été faites par... des équipes à l'époque, je crois qu'ils ne se rendaient pas trop compte de la façon dont ça se passait ici. Il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues par la loi pour des communes tourisme montagne, pour des communes qui font moins de 50 000, plus de 20 000, plus de 3 000. Il faut juste passer au travers des gouttes. Ben, nous, on n'est pas passé au travers des gouttes. Enfin, on mérite. Hein. On a la mer au sud, on a des montagnes à droite, des espaces verts à l'ouest et à l'est. On veut tous préserver notre environnement, vous l'avez dit vous-même. Je pense que là-dessus, comme pour les bons d'achat, je suis content de savoir qu'il y a unanimité du conseil municipal sur le sujet. Oui, cette loi SRU, elle est punitive, elle est aveugle, et vous parliez de défigurer. C'est-à-dire que s'il faut respecter les 25%, on est obligé de construire. C'est pas en achetant un appartement par-ci, un appartement par-là qu'on va atteindre 25%. On les atteindra pas, on ne veut pas les atteindre de toute façon. Parce qu'atteindre 25% de logements en 2025, ça conduirait à construire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 2000 logements à horizon de 2025. C'est dément. 2000 logements, comment voulez-vous ne pas défigurer la commune en construisant 2000 logements en 5 ans? C'est juste intenable, l'équation est intenable. Si vous construisez 2000 logements en 5 ans, vous défigurez la commune. Sinon, faites-nous une proposition, faites-nous un beau plan, allez voir l'architecte, proposez de construire 2000 logements en 5 ans et faites-nous un beau pradet. Bingo. D'abord, on n'a pas le foncier. Parce que le foncier, pour faire 2000 logements, on ne l'a pas. Ou à moins d'exproprier, mais une procédure d'expropriation, c'est 6, 7, 8 ans. Donc de toute façon, même si on décidait aujourd'hui d'exproprier des propriétaires pour récupérer 5, 10 hectares qui permettraient de faire les 2000 logements, ça prendrait 10 ans d'exproprier. Donc on n'est pas capable de le faire. Et les quelques terrains communaux dont nous avons fait l'acquisition entre 2017 et 2020, ne suffiraient pas à construire 2000 logements. Moi, je préfère qu'on prenne notre temps. On va réfléchir tranquillement à la façon de faire des programmes d'aménagement qui vont peut-être pas intéresser les Parisiens, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à embellir la commune, faire des beaux projets qui conviennent auprès des temps, qui conviennent à l'ensemble du conseil municipal. Pas des projets qui font plaisir à Paris. Moi, je m'en fous de ce qui se passe à Paris. Je m'en fous de ce qui fait plaisir au ministre là-haut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plaisir auprès des temps, de continuer à embellir la commune, et je pense qu'on est tous d'accord sur ce sujet, et à faire des programmes d'aménagement qui correspondent à la dimension du Pradet, et pas des projets d'aménagement qui correspondent à une loi qui est inepte, qui est inapplicable, et dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle est inapplicable. Voilà. Je ne voulais pas être très long, j'espère que je ne vais pas être trop long, mais je sais que le sujet est passionnant, et c'est un vrai sujet d'aménagement, parce que si on décidait de construire sur le prochain mandat, mais ça serait... moi, je ne serais plus là dans 2 siècles. Enfin, on défigurait la commune à vie, et c'est surtout ce qu'on ne veut pas faire. Et ce n'est pas une question de social ou pas social, ça serait que du parc privé, ça serait pareil. Ça serait 2000 appartements dans le parc purement privé, ça serait le même problème. On serait conduit à. Ça serait pas autre chose. Ce n'est pas le problème de la mixité sociale. Vous savez, moi, quand je vois des gens qui viennent me voir en permanence, Ou comme Magali, Magali en reçoit aussi beaucoup, hein, Magali elle est là. Hein, on les reçoit les gens, nous, qu'est-ce qu'on aimerait leur faire plaisir. Quand les gens nous expliquent leurs difficultés, on peut tous avoir des accidents de la vie, ça arrive à tout le monde les accidents de la vie. Donc quand il y a quelqu'un qui arrive avec un accident de la vie, qui nous explique son histoire, nous on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir l'aider, de pouvoir lui trouver un logement. Mais donnez-nous les attributions. Laissez les communes, laissez les conseils municipaux, laissez le conseil municipal décider de ça. Où construire, pour qui, laissez-nous attribuer les logements. Mais à partir du moment où l'État s'en occupe, c'est la Bérézina. Monsieur Pézeri.
Donc j'ai bien écouté sereinement vos arguments. Donc une première petite argumentaire, si vous n'avez plus le droit d'attribution, c'est parce que la commune est en carence, comme d'autres communes. Donc c'est un cercle vicieux, certes, mais il n'y a que logique là-dedans. Sur votre proposition de vous faire un plan avec des propositions, pourquoi pas, j'ose espérer que la prochaine réunion aménagement territoire et urbanisme soit prolixe en la matière et vous permettez à nos élus de vous accompagner, de proposer des idées. Ils sont suffisamment riches en propositions pour vous accompagner. Et je voulais vous remercier, puisque nous avions fait une annonce dans la campagne de parler de bail réel solidaire. Vous allez le faire. Donc, un des points que nous avions lancé dans notre programme. Donc, le jour où vous défendrez ce projet en conseil municipal, s'il tient la route, nous serons à vos côtés.
Oui, on vous présentera. C'est déjà bien, très bien avancé, hein, puisqu'on les a vus à plusieurs reprises. Je pense qu'on est à peu près calé sur tout. Bon, il y a toujours les petits problèmes techniques, comme vous le savez, mais le BRS, c'est une quasi-réalité maintenant. On sera amené à vous en parler lors de la prochaine commission d'aménagement. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, on en parlera lors du prochain conseil municipal, qu'on fera passer une délibération sur le sujet, parce que ça fera l'objet aussi d'une subvention. Comme quand, vous voyez, aujourd'hui, on dépense 300 000 euros pour aider les gens à se loger, on n'hésitera pas à reprendre des délibérations l'année prochaine.
Allez-y,
monsieur Pézeri.
Je suis désolé, j'ai oublié un point. Vous avez évoqué le fait que le préfet vous ait bloqué des projets. Donc, quels sont ces projets?
Alors, c'est public, hein, je peux en parler, je pense. Alors, il y avait plusieurs projets. Il y avait un projet de BRS. C'était pas un BRS à l'époque, c'était une accession à propriété au pensionnat avec Irelia. Ça a été refusé par la préfecture. Voilà. Ensuite, il y avait un projet à la Grenouille. Un promoteur avait un projet pour installer une maison de retraite, pour faire du social et un petit lotissement. Ça a été refusé par la préfecture. Je vous rappelle, je pense que vous le savez, qu'il y avait eu déjà un jugement du tribunal pour annuler un précédent projet, qui nous a valu un déconventionnement de 120 logements, ce qui nous place dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, et pas seulement, mais ça en fait partie. Donc il y avait un petit projet qui était là, au lieu de la Grenouille. Bon, c'est tombé à l'eau, ça fait croix une fois de plus. Et puis qu'est-ce qu'on avait d'autre comme projet? Je sais plus, il y a peut-être un petit projet ou deux qui ont été abandonnés encore. On voulait aussi, dans la Syrie, on a quand même du mal à se mettre en phase avec l'État. On avait aussi le projet d'acquérir un terrain en plein centre-ville pour faire un parking. Ça aussi, ça nous était refusé parce qu'on nous expliquait qu'on n'avait pas le droit de faire des parkings, il fallait faire du logement social. Donc on ne peut même plus faire des parkings en centre-ville. Et on avait essayé d'acheter des terrains. Et en fait, c'est parce qu'on a perdu aussi le droit de préemption et aussi parti à la préfecture. Résultat, depuis 3 ans, ils n'ont rien préempté. Hein, donc... Je ne sais pas qui est le mauvais élève entre nous et la DTM, j'ai une petite idée sur la question. Donc oui, je pense que cette loi SRU et cette mise en carence, on essaie de pénaliser les communes, on pénalise surtout les gens qui auraient besoin de se loger.
Le projet de la Garonne ne fait pas partie des projets arrêtés par M. le préfet?
Le projet de la Garonne, c'est un projet qui est purement privé, c'est pas du collectif en fait, c'est du logement individuel. Donc il y a un recours qui a été fait par les riverains et le préfet au titre à deux titres en fait. Un premier volet, c'est un problème de retournement pompier, et le deuxième volet, c'est un volet qui est lié à l'absence de social. Mais bon, c'est un choix du promoteur hein, de faire un projet à titre de lotissement individuel. Si vous pensez qu'il faut faire du social là-bas, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Choix de vie. Moi, je pense que on fera un conseil municipal dédié à la loi SRU.
Choix de vie.
Voilà. Et alors, je vous propose de passer au vote parce qu'il reste quelques délibérations. Monsieur Riquel, allez-y. Avec un micro.
Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. Je voudrais recentrer la discussion. Vous avez parlé longuement de la loi SRU et de toute sa complexité. On pourrait y passer effectivement un conseil municipal, mais j'aurais aimé recentrer quand même sur le sujet de la délibération qui est ce projet immobilier de 80 logements, à peu près 77 exactement, porté par Bouygues Immobilier, sur un terrain de 6000 m², un terrain boisé. Il est intéressant pour les Pradétans d'aller regarder sur Google et de jeter un œil à l'ambiance aujourd'hui de ce terrain, qui est situé dans la montée de la Garonne, à proximité, pas à proximité, c'est carrément le terrain voisin du cimetière communal, du cimetière Bellevue. Cela fait 5 bâtiments, on arrive à peu près à un R plus 5, 4530 m² de plancher. Quand je dis R plus 5, parce qu'effectivement les promoteurs sont toujours assez adroits, ils jouent après avec les pentes, hein. Mais si vous mettez au niveau de la rue, vous allez avoir une barre de R plus 5, juste en face des immeubles qui existent déjà. Donc le quartier autour est un quartier résidentiel. Ah, les promoteurs, c'est assez sympathique, ils appellent le projet l'ensoleillé. L'ensoleillé part pour tout le monde, parce que bon nombre de riverains vont être impactés lourdement par ce programme immobilier. Et là, la commune ne pense pas à elle, ne les défend pas. Ce programme immobilier est très dense. Et je trouve qu'en tant que Pradétan, enfant du Pradé, c'est inacceptable. Soutenir ce projet en plus avec une aide financière de 300 et quelques mille euros, bien entendu, je vais voter contre, non pas pour la question du logement social sur laquelle vous êtes longuement exprimé, mais sur la question de la densité de ce programme. Vous avez, fut un temps, défendu le fait qu'au Pradé, il ne fallait plus faire de construction aussi importante. Aujourd'hui, si on regarde le plan, je me le suis affiché pour bien me le remémorer, tout l'espace boisé va être supprimé. On va se retrouver avec 5 immeubles, une barre d'immeubles. Un impact sur les voisins, qui plus est, on n'a aujourd'hui plus aucune réserve foncière pour les cimetières du Pradé, on a déjà fait l'extension, on sait que c'est un vrai sujet. On aurait pu réfléchir à la question de prendre un morceau de terrain et donc de pouvoir négocier avec les promoteurs pour arriver à maintenir un équilibre, on va dire, au niveau de l'environnement et de l'ambiance de ce quartier. Donc 130 parkings vont être réalisés également, ça suffira pas, on le sait, pour le fonctionnement de ce nouvel ensemble. Donc ça veut dire quoi? Derrière des pressions, et donc des pressions dans le quartier, et des gens qui vont évidemment en subir les conséquences. Donc pensons au Pradétan, recentrons-nous par rapport à leur intérêt. Moi je propose à tous mes collègues ici présents de réfléchir à ça, parce qu'aucun de nous n'avons envie d'avoir une construction de ce type venant impacter notre maison. Donc oui pour un projet, mais un projet plus équilibré. Défendons les Pradétans, défendons les voisins aussi et les riverains du programme. Et une petite remarque également, j'ai vu qu'il y avait un coût d'opération qui était indiqué à environ 4 millions, un peu plus de 4 millions d'euros, avec un foncier à 3,8 millions, un bâtiment à 184 000 euros et des honoraires à 85 000 euros. Je n'ai pas bien compris ce que cela signifiait. C'est le coût du foncier, j'ai l'impression qu'il doit être à 3,8 millions, peut-être, je ne sais pas. Et après, bâtiment, 184 000 euros, ça veut dire le coût de la construction des bâtiments. J'arrive pas à le lire, ce tableau-là. Donc, si vous pouvez, si quelqu'un peut nous l'expliquer. Je vous remercie.
Monsieur Riquelme, je vais me permettre de répondre, parce que là, vous faites vraiment de la politique politicienne. Il s'agit d'une propriété privée. Donc, déjà, une propriété privée. Chacun a le droit de vendre à qui bon lui convient. Et ensuite, il y a un code de l'urbanisme. Donc le code de l'urbanisme, il est établi en fonction effectivement de différents... Enfin, c'est un code pour tout le monde. Et surtout, il est établi, quand on examine un projet, en fonction du PLU. Voilà. Donc on ne peut pas refuser un permis selon notre bon vouloir. En ce qui concerne les espaces verts, le projet compte 40% d'espaces verts. C'est aussi dans le PLU. Donc, pareil, c'est... c'est des mensonges. Ensuite, vous dites R+5, c'est faux aussi, c'est parce que le terrain naturel, il est déjà en pente. Donc, effectivement, c'est une vision. Donc, tout ça, c'est encore une fois juste pour monter une polémique. Vous y êtes habitués, on y est habitués, nous aussi. Donc, voilà, je vous rappelle, encore une fois, on est sur un terrain privé, chacun fait bon ce qu'il... Enfin, selon... La personne doit bien sûr respecter le code de l'urbanisme, le PLU. Le dossier a été instruit. Hein. Il a été instruit aussi par les services de TPM. Je ne vois pas dans quelle mesure nous pourrions refuser un permis instruit en bonne et due forme. Ou alors, voilà, on se pose à la loi. Alors, je ne sais pas quel est votre but, là, monsieur Riquel, mais je ne comprends pas bien.
Merci. En complément de ce qui a été dit, je voudrais juste expliquer à quoi ça sert de faire une délibération, en fait, pour donner une subvention. Au-delà de l'aspect, je sors de l'aspect du projet en lui-même, techniquement, je vais essayer de faire simplement. En fait, la pénalité SRU, elle passe sur le budget de fonctionnement. Donc, de toute façon, les 328 000 euros, c'est perdu. Soit c'est retiré de la DGF, donc ça rentre dans le budget de fonctionnement, soit on fait un investissement de 320 000 euros et à ce moment-là, la DGF est intacte, on préserve notre budget de fonctionnement. Martine Cabot connaît ça très bien, M. Pézri aussi. Donc le budget de fonctionnement n'est pas impacté et c'est un investissement qui est donné en faveur de la construction. Donc l'avantage, il est techniquement financier. Ça permet en fait de faire passer 300 000 euros d'amende sur le budget d'investissement plutôt que sur le budget de fonctionnement. Et ensuite, ça donne aussi des droits de réservation sur les logements. Les droits de réservation sont passés à la préfecture, vous allez me dire. Mais en fait, il faut savoir que pour chaque euro dépensé, on a le droit de loger des gens qui sont choisis par la commune. Alors, quand on est carencé, c'est compliqué, mais ce n'est pas tout à fait impossible, Magali. Donc l'idée, c'est de donner une subvention à double titre. Un, pour ne pas impacter le budget fonctionnement. Et on a tous besoin de dégager l'épargne pour continuer à investir. Et deuxièmement, pour quand même continuer à dialoguer à la préfecture pour loger des pradétants, c'est-à-dire que là, avec cette délibération, on a la possibilité quand même de loger 10 pradétants. Donc ne pas voter cette subvention, c'est ne pas donner la possibilité à 10 prédétants de profiter des logements sociaux. Alors, s'abstenir, pourquoi pas, voter contre, ça va contre l'intérêt des 10 prédétants, potentiellement, on pourrait loger dans ces logements. Mais c'est bien sûr votre choix, et chacun respectera, M. Riquelme. Allez-y.
Oui, monsieur le maire, dire que voter contre, c'est voter contre ces 10 pradétants. Bon, et bien entendu, ce n'est pas le sens de ce que je vous ai exprimé tout à l'heure. Vous recentrez le débat sur la problématique des pénalités, où là, nous avions été en phase un temps. Je vous ai entendu dire également que le Pradé subissait, fut un temps, trop de pression immobilière, et vous avez, au fur et à mesure du temps, changé de cap. Aujourd'hui, vous êtes prêt à réaliser un programme immobilier qui est dense au maximum. Fut un temps, vous aviez une autre position et on s'en souvient. Les pradétans s'en souviennent et moi, je m'en souviens, j'étais en phase avec vous pour préserver le Pradé, pour préserver notre cadre de vie, pour respecter les pradétans et les riverains. Et je voterai contre cette délibération pour cet argument-là et pas d'autre.
C'est votre choix. Je vous dis simplement que cette délibération elle est plutôt technique et qu'elle concerne à la fois le budget de fonctionnement et la possibilité d'attribuer des logements à des prédétants. Maintenant, je respecte bien sûr le vote de chacun des conseillers municipaux qui sont présents à cette table. Chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de... Vous assumez votre vote, c'est très bien. Donc, entre-temps, les élections sont passées et je crois que les prédétants ont déjà tranché ce type de polémique. Monsieur Pézri.
Oui, donc au-delà de l'aspect technique, je pense que vous avez largement débordé sur le côté philosophique, politique de la chose avec le SRU. Donc je pense
J'assume.
Que le niveau du vote prendra tout ça en compte. Je reviens un peu sur ce qu'a dit Mme Rigaland. Donc j'ai rejoint qu'il y a un PLU, que le PLU s'applique. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que selon les projets des propriétaires privés, j'entends bien que ce sont des projets de propriétaires privés, ben, vous laissez faire les propriétaires privés, et j'entends tout à fait leur liberté, mais sur certains terrains, nous arrivons à ce que nous avons à la Garonne, c'est-à-dire ben, parce que c'est, quand vous avez un choix de vie, on va habiter à côté du logement social, ben, le propriétaire, on le laisse faire du logement séparé, donc pas rentrer dans le collectif. Et là, comme c'est quasiment impossible d'avoir une rentabilité sur ce terrain-là avec le même principe que la Garonne, ben on laisse faire le propriétaire du logement social, donc forcément avec une densité qui est liée au PLU. Je vous rejoins. Mais donc, plusieurs lectures. Et vous l'avez dit, alors, j'ai été adjoint à l'urbanisme, j'ai été maire. Il y a des choix à faire. Donc, dans certains projets, je pense qu'il faut arriver à faire réfléchir certaines choses. Donc, voilà. L'intérêt des bras d'étang, je ne pense pas qu'on puisse le trahir selon le vote, mais je pense surtout que vous avez aussi la force de faire réfléchir certains projets. Ça s'est passé par le passé. Vous pourriez réfléchir aussi par le présent.
Merci. Je vous propose de passer au vote. Je pense qu'on aura l'occasion, durant le mandat, de faire d'autres conseils municipaux avec d'autres attributions et puis d'autres projets. On aura l'occasion d'en reparler, notamment au travers des commissions d'aménagement. Je vous propose de procéder au vote. Et puis ensuite, on va continuer le conseil municipal. Il nous reste quand même quelques délibérations. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Délibération numéro 22, Thomas Michel. Ça concerne une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Avec un micro.
C'est bon, c'est passé au vert. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes très chers collègues, on va continuer à parler de logement, mais de la convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Donc, l'article 47 de la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne du 28 décembre 2016 prévoit que les communes ayant reçu la dénomination de touristique doivent conclure avec l'État, avant le 28 décembre 2018 et pour une durée de 3 ans, une convention pour le logement de travailleurs saisonniers. Ce délai a été prorogé avec la loi Élan jusqu'au 28 décembre 2019, puis jusqu'à décembre 2020 suite à la crise sanitaire. Pour mémoire, 8 communes de la métropole sont stations classées de tourisme. Saint-Mandrier, Sifour-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, Olioule, Toulon, Le Pradé, Carquéran et Hyères. Cette convention a pour objet, conformément aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation, de définir les besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire de la commune du Pradé. Elle est élaborée en association avec l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune, la métropole TPM et Action Logement Service. L'agence d'urbanisme de l'aire toulonnaise et du Var, ODAT Var, a apporté un appui à la réalisation de cette convention qui comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers ainsi que l'identification des orientations stratégiques et actions à mettre en œuvre. La convention prend en compte les objectifs en faveur du logement des travailleurs saisonniers contenus dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement aussi des personnes défavorisées. Donc il est demandé simplement à ce qu'on accepte que Monsieur le maire signe cette convention. Je tiens juste à rappeler que l'objectif de la convention est la reconnaissance de la ville du Pradé comme station classée de tourisme, tout simplement.
Merci pour cette présentation. Des questions ? Monsieur Joffre.
Merci Monsieur le maire, merci chers collègues. Je vais vous donner mon sentiment sur cette convention que vous nous proposez au vote aujourd'hui. Pour tout vous dire, elle me laisse un peu sur ma faim. Le diagnostic qui est fait par l'ODAT est plutôt clair. Notre commune manque de logements pour l'hébergement d'une cinquantaine de travailleurs saisonniers. Alors, suite à ce constat, vous avez établi des préconisations, des orientations, une petite liste d'actions à mettre en place. Par cette convention, vous prévoyez de déployer une communication à destination des bailleurs privés de notre commune afin de les inciter à louer leur logement saisonnier aux travailleurs saisonniers. Personnellement, j'y crois pas. Est-ce que vous y croyez vraiment? Même s'ils pourront percevoir des aides, je doute qu'ils le feront. Par cette convention, vous prévoyez également de rentrer en contact avec les gestionnaires de résidences universitaires. situé sur la commune voisine de la Garde. Ok, pourquoi pas. Mais pour moi, pour nous, ce n'est qu'une demi-mesure. Nous aurions pu sans doute aller plus loin dans la réflexion, dans les propositions. Qui plus est, quels sont concrètement les moyens que vous allez mettre en œuvre pour déployer ces actions? Donc en conclusion, cette convention conclue avec l'État pour 3 ans aurait mérité plus d'engagement, je le crois, plus de vision à long terme, plus de propositions concrètes pour les travailleurs saisonniers qui sont dans notre petite commune touristique. Alors dans l'attente de vos réponses à mon intervention, je vous informe qu'en l'État, nous prévoyons de nous abstenir sur ce projet de convention. Je me permets également de rebondir un tout petit instant sur la délibération précédente. J'ai appris il y a quelques instants bon nombre de projets qui ont été avortés. J'aurais souhaité, tant que possible, qu'on les aborde déjà en commission urbanisme préalablement à ce conseil. La commission urbanisme qui s'est réunie la semaine dernière n'a pas abordé tous les projets qui ont subi des échecs, comme vous nous l'avez précisé aujourd'hui. J'aurais aimé le savoir préalablement. Je réitère mon intention de travailler pour la commune et de participer aux réflexions. Or, les commissions telles qu'elles sont prévues aujourd'hui me laissent là aussi un petit peu sur ma faim. Merci.
Bon, pas de réponse à apporter, je pense. On va voter. Thomas, tu vas apporter une réponse, on est bon, voilà. Donc on va juste passer au vote à ce moment-là. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc abstention. Qui est pour ? Et je donne la parole à Valérie qui va vous répondre sur la tenue des commissions. Je rappelle juste de façon plus générale, on a tenu mettre en place un certain nombre de commissions justement pour tenir informer l'opposition. Certains des élus, vous n'en faites pas partie, Monsieur Joffre, mais certains des élus nous posent des questions par email ou téléphone ou passe. On les renseigne systématiquement sur toutes les questions qu'ils ont. Voilà, donc on est vraiment dans une logique de vous tenir au courant de tout ce qui se passe sur la commune, de vous répondre plus tôt. Après, on a quand même des contraintes techniques et des contraintes de non-désorganisation des services, mais on s'efforce de vous répondre aussi bien que possible, aussi vite que possible, de vous donner toute la transparence qui est nécessaire au bon fonctionnement de la démocratie. Et je vais laisser Valérie Rialan répondre en ce qui concerne la commission aménagement.
Je vais dans le même sens, hein, c'est des dossiers un peu anciens, donc on a pour habitude de mettre à l'ordre du jour les dossiers qui vont passer en conseil municipal. Maintenant, effectivement, rien ne nous empêche d'aborder ces questions. Hein. Moi, on n'a jamais manqué de répondre à une seule question, il me semble. Si on ne sait pas y répondre sur le moment, on vous donne la réponse ensuite. C'est vrai que le format, il est évolutif. Hein, si vous avez des besoins, moi, j'ai aucun problème. Hein. Voilà.
Non, mais effectivement, hein, pour l'instant, je crois que ces commissions, en tout cas celle à laquelle je participe, est positionnée comme une commission d'information. Je pensais, mais peut-être que je me trompais, avoir une position d'un peu plus de réflexion. Voilà, aujourd'hui je ne l'ai pas. Concernant les projets dont je parlais, le bail réel solidaire que vous avez évoqué, c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 3 semaines. Je pense qu'on aurait pu l'évoquer en commission.
Je vous retourne la chose. Vous auriez aussi pu nous parler de vos réflexions sur le BRS lors de la tenue de la commission. Donc, on va passer à la délibération numéro 23. Donc ça concerne la convention d'exploitation du club kayak et du club nautique dans le cadre de la concession d'utilisation. La parole est à Agnès Biasuto.
Oui. Alors par arrêté préfectoral du 19 août 2020, la commune du Pradé est devenue concessionnaire du domaine public maritime sur tout le secteur situé au sud de la plage de la Garonne et dénommé base nautique de la Garonne. Cette concession d'utilisation du domaine public maritime a pour objet l'utilisation, l'équipement et l'entretien du domaine public maritime de la base nautique de la Garonne. Sa superficie totale est de 7000 m², dont 5175 m² émergés, et est composée d'un terre-plein supportant notamment et pour partie 2 lots d'activités nautiques. Le lot numéro 1 du club nautique de 1735 m² comprenant des bâtis durs et légers respectivement de 114 et 156 m², des cales de mise à l'eau de 184 m² et un terre-plein de 1281 m². Le lot numéro 2 pour le club de kayak, de 242 m², comprenant un bâti léger de 164 m² et un terre-plein de 78 m². La commune du Pradé, en tant que concessionnaire, peut confier à des sous-traitants, par le biais de conventions d'exploitation, tout ou partie des activités susmentionnées. Il est énoncé la chose suivante. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R 2124-1 et R 2124-12, vu l'arrêté préfectoral du 19 août 2020 accordant à la commune du Pradé la concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports sur la base nautique de la Garonne, vu la convention relative à la concession susvisée, considérant que la commune du Pradé souhaite pérenniser l'activité des clubs sur la base de la Garonne et maintenir leur présence historique sur le site, considérant que les clubs devront s'acquitter annuellement d'une redevance pour l'occupation domaniale dont ils seront bénéficiaires, d'un montant égal à ce que verse la commune à la DDFIP au titre de ses concessions. Donc pour 2021, les montants sont de 17 758,65 euros pour le lot 1 et 3 747,98 euros pour le lot 2. Considérant que ces montants sont susceptibles d'être révisés par la DDFIP et qu'il conviendra alors de récupérer ces modifications sur les exploitants sans qu'il y ait lieu de délibérer à nouveau, considérant la durée des conventions d'exploitation est fixée à 6 ans, considérant les termes des projets des conventions ci-joints annexées, il est donc demandé au Conseil municipal d'adopter l'exposé qui précède, d'autoriser M. le maire à signer la convention d'exploitation avec le club de kayak du Pradé, d'autoriser M. le maire à signer la convention d'exploitation avec le club nautique du Pradé de la Garonne. L'Assemblée procédera à un vote pour chacune des conventions. Merci.
Merci pour cette présentation. Donc je propose de passer au vote. Monsieur Tandil.
Merci. Je reviens sur la concession d'utilisation du domaine public maritime a été citée à la synthèse 14 pour club nautique. Une convention est établie pour 6 ans pour les deux associations qui ont chacune une action. Loin, je ne reviens pas là-dessus, sur le club nautique. Donc on a vu la redevance qui est identique de 2020 et 2021. Ici, nous parlons du club de kayak, avec une convention d'exploitation du lot numéro 2 qui, lui aussi, est soumis à une redevance pour l'occupation domaniale d'un montant de 3 747,98 € pour 2021. Certes, la surface d'occupation est plus petite. Notre question, les années antérieures, le club de kayak avait-il une redevance à verser à la direction départementale des finances publiques? Si c'est le cas, pourquoi ne bénéficie-t-il pas d'une aide de subvention de complémentaire au même titre que le club nautique? Merci.
Alors, il versait directement à l'État sa redevance, puisque nous sommes devenus concessionnaires que depuis le 19 août 2020. Donc jusqu'à présent, les deux clubs versaient directement à l'État la redevance. Qui était bien moindre, puisque je vous ai annoncé tout à l'heure qu'il y avait des accords passés avec la DDFIP qui a annoncé un abattement et qui n'existe plus à ce jour. Voilà. Donc, il faisait en direct à l'État. Au jour d'aujourd'hui, c'est à la commune que la redevance va être versée.
Non, mais là, je suis bien d'accord avec vous, jusqu'à maintenant. Mais les années antérieures, c'est-à-dire 2018, 2019, 2018, est-ce qu'ils avaient une redevance domaniale à payer?
Oui, bien sûr.
Ah, d'accord.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Qui était un petit peu inférieur, oui.
D'accord.
Et vous voulez savoir les montants?
Oui.
Oui, tout à fait.
Par contre, sur la convention, les deux conventions que vous faites, pourquoi 6 ans?
6 ans, c'est la durée de mandat.
Oui, ça j'ai bien compris. Oui,
ben voilà.
Ça j'ai bien compris, mais pourquoi 6 ans? Je trouve, ça aurait pu être 3 ans renouvelables.
Non, nous estimons, nous sommes là pour 6 ans, nous faisons...
Voilà. Ok.
Merci. Merci pour cette présentation. Donc, je vous propose de passer au vote. Ça va être convention par convention, si vous en êtes d'accord. Donc, la première convention, c'est le lot de plage numéro 1. Qui contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. La convention numéro 2, donc du lot de plage numéro 2, même chose. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 24, ça correspond à l'approbation du cadre tarifaire concernant le domaine public du kiosque. En fait, c'est le glacier de la Garonne, pour être très simple. Un glacier qui a été installé en 2016 ou 2017, qui a rencontré son public, qui a fait aussi l'objet de quelques polémiques au tout départ. Mais je pense que chacun s'accorde à dire que c'est finalement un gros succès. Ça a permis de rendre de l'attractivité à la Garonne. Il n'y a pas besoin. On a déjà un site qui est magnifique, mais une petite attractivité commerciale avec beaucoup de gens. Hier, c'était plein encore. Beaucoup de gens sont promenés à la Garonne. Ils ont profité du beau temps, de la belle mer et du magnifique glacier qui est installé à la Garonne. Et ça anime ce petit coin magique du Pradet. Donc l'idée, c'est de continuer à avoir un exploitant là-bas. Donc Thomas Michel va prendre la parole pour vous parler de ce qui est prévu.
Qu'il s'agit de l'approbation du cadre tarifaire permettant la fixation de la redevance applicable à l'occupation du domaine public pour le kiosque alimentaire glacier de la Garonne. La commune met à disposition pour l'exploitation d'une activité de glacier crépier confiseur au lieu-dit de la Garonne un kiosque alimentaire de 24 mètres carrés, des espaces extérieurs de 86 mètres carrés, terrasse ouverte. Une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, une AOT, a été délivrée à un exploitant le 9 février 2018. Cette AOT arrive à échéance le 8 février 2021. La commune souhaite lancer un nouvel appel à candidature sur la même base de cahier des charges. Pour ce faire, il doit être fixé en amont le cadre forfaitaire permettant l'application d'une redevance. Eu égard à l'intérêt que présente un glacier sur la plage de la Garonne, permettant une valorisation certaine du domaine public, il est décidé de maintenir le montant de la redevance à 9 695,60 € annuels.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je propose d'écouter Martine Cabot qui va nous poser une question.
Ça marche? Monsieur le maire, nous avons demandé en commission Affaires générales et finances, donc jeudi dernier, d'avoir accès au cahier des charges donc pour la nouvelle AOT. Il nous a été répondu qu'il était en cours. Donc nous espérons que lorsqu'il sera prêt, nous aurons la possibilité de le consulter.
Bien entendu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que... Jean-Michel Perratou, il est là. Il y a une commission qui se tient à Affaires générales et finances. Donc, ce sera un sujet qui sera bien sûr abordé lors de la commission.
Merci.
Alors, vous avez aussi demandé une balance des comptes qui vous sera donnée. Oui, oui. Voilà le temps que vous savez comment ça se passe. On ne va pas désorganiser les services pour ça, mais enfin, vous l'aurez avant la fin du mois, oui.
Monsieur Perratou me l'a dit tout à l'heure.
Ah merci. Oui, il m'a précédé. Parfait. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité. Je vous remercie. Question numéro 25, ça concerne la taxe locale sur la publicité extérieure, qui va être présentée par Valérie Rialan.
Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit d'adapter la délibération initiale fixant la tarification de la taxe locale de publicité afin d'indexer les tarifs sur l'indice des prix à la consommation. Alors, il faut savoir, et c'est important, je tiens à le souligner, qu'il existe une exonération de plein droit des enseignes dont la superficie totale cumulée est inférieure ou égale à 7 mètres carrés. Donc, ça, c'est un dispositif qui est bien maintenu. Et à ce sujet, je tiens aussi à rappeler notre engagement dans le soutien au commerce de proximité. Donc, l'exonération de la TLPE au titre de 2020, vous évoquiez la distribution des bons à la population, la campagne de communication à l'égard des petits commerçants. Voilà. Donc, il s'agit en fait juste d'une modification, de régulariser cette première délibération qui datait du 28 septembre 2008. Je vous remercie.
Merci Valérie. Pas de questions complémentaires. Madame Cabot.
À l'époque où je travaillais, monsieur le maire, donc il y avait eu un audit fait par GoPub, si je me souviens bien. C'est ça. Est-ce qu'il est toujours en cours? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui recensent? Oui.
En fait, on est toujours, effectivement, on a toujours à marcher avec eux. Mm-hmm. Et effectivement, c'est eux qui nous ont alertés sur cette petite chose à modifier, voilà. D'accord. Donc c'est toujours GoPub. Ça va arriver à échéance, mais on va refaire un marché.
Oui. Voilà. Par contre, qu'en est-il des enseignes lumineuses? Parce qu'on se parle des enseignes, des pré-enseignes, mais les enseignes lumineuses.
Alors là, il ne faut pas confondre. Effectivement, tout dispositif est taxable, mm-hmm. légal ou pas légal. Il y a l'histoire du règlement local de publicité qui est autre chose.
Oui.
Voilà. Où là, on a un règlement local de publicité sur la ville du Pradet qui va un peu plus loin que le code de l'environnement. Et donc, normalement, les enseignes lumineuses, et en particulier en accord avec les préconisations du parc de Porquerolles, ne sont pas autorisé. D'accord. Mais sachant que les commerçants avaient 6 ans pour se mettre en conformité, on n'est pas encore au bout des 6 ans. Voilà.
D'accord.
Donc, mais c'est un autre problème. Donc, le jour où on refera un RLP, ça va passer au RLP intercommunal, ben, là, on reviendra vers vous, bien évidemment. Mais pour le moment, là, il s'agit de voter juste la taxe.
D'accord. Justement, je voulais vous poser la question, justement, pour la charte de Port-Cros, si ça entre en ligne de compte. Voilà. Et encore une petite question, excusez-moi. Vous avez voté, on va voter, donc, une petite augmentation, on va dire, sur la TLPE, qui est de 1,5%. J'espère, enfin, je ne l'espère pas, que la COVID-19 va continuer l'année prochaine. Mais qu'en est-il si, malheureusement, il y a encore des confinements et voilà. Est-ce que les commerçants vont être exonérés?
Je crois que c'est ce qu'on a démontré depuis le début de la crise, avec les différentes vagues, qu'on était en mode réponse et même très réactif, tant vis-à-vis de la population que les commerçants. Ça va continuer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. C'est la même équipe qui a été réinstallée, la même équipe qui a la même dynamique, qui a la même réactivité. On l'a vu sur cette deuxième vague de confinement, on a été très réactif également. On avait été réactif sur la première vague en faisant le travail sur les masques, sur la protection de la population. On est réactif sur cette deuxième vague. On espère qu'on n'aura pas à être réactif sur une troisième vague. Mais s'il faut l'être, nous le serons à nouveau. On sera toujours présent au rendez-vous comme on l'a été dans le passé.
Merci.
Je vous en prie. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Maintenant, on va passer aux questions 26 et 27. Ça concerne le foyer logement dont il a été question à plusieurs conseils municipaux déjà. Donc l'idée, c'est de faire l'acquisition du bâtiment. Donc ça a pris un peu de temps. Il y a déjà une délibération qui est passée en conseil municipal. Donc rien de nouveau, pas de surprise. Donc ce qu'on fait voter aujourd'hui, c'est l'acquisition effectivement du rail pour la question 26 et une demande de subvention auprès du conseil départemental et de TPM dans le cadre de ce projet d'acquisition sur la délibération numéro 27. Est-ce que vous avez des questions sur la délibération 26 ou 27 ou 26 et 27? Madame Cabot.
Concernant donc la résidence Rail de Soulet, donc nous sommes d'accord, hein, puisque voilà, on a déjà délibéré sur ce sujet. Par contre, lorsque vous avez fait la demande en juillet pour la région concernant le fonds régional, est-ce que vous avez eu des réponses déjà pour les 200 000 euros, puisqu'il est dans votre plan de financement?
Oui, on a déjà une réponse. C'est positif.
D'accord, très bien.
Mais
Et ensuite, donc, lorsque cette acquisition sera faite, est-ce que vous avez des projets pour une extension éventuellement dans l'avenir et le devenir de la résidence?
Alors,
sachant qu'il y a énormément de travaux à faire.
Vous le savez, jamais la charrue avant les bœufs.
Oui.
Donc là, on installe les bœufs. Et puis la prochaine idée, c'est de savoir ce qu'on met dans la charrue. Bien sûr qu'il y a des idées de projets, un certain nombre de questions qui se posent. On aura l'occasion d'en reparler en commission d'aménagement, en termes de social aussi, à la commission CCS. On aura l'occasion de reparler de tout ce sujet. Il n'y a rien d'urgent, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Il y a des pistes de réflexion, agrandissement, pas agrandissement. Il y a plein de pistes de réflexion, mais aujourd'hui, on est au stade simplement de la réflexion. Donc, vous serez amené à réfléchir avec nous. Notamment, on se voit assez souvent au CCS quand on tient les conseils d'administration sur les sujets qui sont régulièrement évoqués. Ça n'a pas avancé. On cherchait surtout à avancer sur la partie acquisition, qui est pour nous le sujet principal. Ça permet de diminuer le montant des loyers potentiels qui pourraient être appliqués à la commune au travers du bail qui avait été signé il y a 25 ans, si la mémoire est bonne, avec Var Habitat. Donc l'idée, c'est que la commune se rende propriétaire du bâtiment avant de travailler sur un projet. Je pense qu'on sera amené à travailler 2021 ou 2022 sur un projet pour l'avenir du foyer logement. Quand on regarde un petit peu, on a quand même vu pas mal de spécialistes sur la question depuis quelques temps. Ils ont tous plein d'idées sur ce qu'on pourrait faire. Nous aussi, on a des idées sur ce qu'on pourrait faire. Je ne doute pas un instant que vous ayez aussi des idées sur ce qu'on pourrait y mettre. Écoutez, on sera amené à réfléchir à tout ça ensemble et on fera un beau foyer logement qui sera aux normes, qui sera à la fois conforme aux attentes de la population aujourd'hui. Enfin, on est vraiment aux prémices, on est vraiment au début de la réflexion.
Merci.
Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Pareil pour la 27, demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Alors ensuite, on a quasiment fini avec ce conseil municipal. Les dernières délibérations, ce sont en fait des rapports de présentation qui est proposé au conseil municipal. Il n'y a pas de vote pour chacun de ces rapports. Vous avez dû en prendre connaissance avec beaucoup d'attention tout ce week-end et avant pour les plus studieux. Donc je vous propose, c'est peut-être de poser des questions, si vous en avez, sur chacun de ces rapports. Monsieur Pézeri, pour commencer.
Merci. J'avais une question d'ordre général. Il est indiqué que les différentes opérations mises en place sur l'ensemble de l'agglomération ont permis de faire 4,12% de diminution d'apport de déchets ménagers. Là, je suis sur la 28.
La première, la 28, oui.
Excusez-moi, je n'ai pas précisé. Ouais. Voilà, il a été indiqué une diminution de 4,12%. Est-ce qu'au niveau de la métropole, puisque c'est une compétence métropolitaine, il y a des axes d'amélioration pour faire en sorte que cette diminution augmente?
Alors oui, il y a beaucoup de choses qui sont en place, notamment au Pradet, ce qui nous concerne. Il y a une ressourcerie qui est en cours de construction. Donc la ressourcerie, elle prendra sa place entre le point P et la diligence. Ça passe par une procédure de déclaration de projet d'intérêt général ou peut-être une révision simplifiée du PLU. C'est les questions qui se posent aujourd'hui à la métropole. L'idée, c'est en fait de modifier à la marge le règlement pour permettre l'installation d'une ressourcerie. Donc la ressourcerie, c'est un principe d'économie circulaire. On va tous à la déchetterie, on voit qu'il y a pas mal de produits qui sont jetés, qui pourraient avoir une deuxième, peut-être une troisième vie pour certains de ces produits. Donc l'idée, c'est de gâcher beaucoup moins et d'améliorer l'économie circulaire de manière à ce que les produits soient recyclés plutôt que jeter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une déchetterie qui est située en zone rouge, qu'on ne peut pas moderniser, on ne peut pas mettre de quai en place. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire si on avait l'espace foncier disponible. Donc on va libérer l'espace foncier pour mettre en place une déchetterie un peu plus moderne. Et puis, ce qu'on appelle en fait une ressourcerie, ça va être une des premières du Var. Je crois qu'il y en a une autre dans le Var, je ne suis même pas sûr. En tout cas, on va faire partir des toutes premières ressourceries qui vont être installées en France. Et ce premier projet pour la métropole, en tout cas, c'est au Pradet et c'est sur le site de la diligence. Et l'idée, c'est bien évidemment de contribuer à la réduction des déchets dans tous ces domaines. Il y a aussi pas mal de lois qui sont en cours, notamment des lois sur les biodéchets, enfin beaucoup de préconisations de l'État qui vont arriver en application en 2021, 2022 et au-delà, qui vont obliger ou contraindre ou permettre, selon l'axe suivant lequel on se place, de réduire les déchets dans tous les domaines.
Oui, donc merci pour cette publicité pour la ressourcerie, mais à mon sens, quand on parle de déchets ménagers, c'est le sac poubelle que nous sortons tous les matins pour jeter. Donc je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a une marge de progrès à faire.
Oh, il y en a partout, des marges de progrès. Faut
par contre, si vous permettez.
J'en prie, monsieur Pesguy.
Vous avez évoqué donc un projet donc, au niveau de point P diligence. J'ai cru lire donc, en allant sur le site de la préfecture qu'il y avait depuis le 7 janvier un arrêté de servitude d'utilité publique concernant le forage de Fonquebal. Donc quid de cette servitude qui va peut-être empêcher le projet?
Alors, on s'est posé la question il y a déjà un an, effectivement, et on a eu des discussions avec l'ARS, parce que c'est remonté au niveau de l'ARS, c'est remonté à tous les niveaux, et on a eu l'accord, en fait, on a eu l'accord pour pouvoir faire une ressourcerie sur place. D'accord. Mais c'est effectivement une des questions principales et essentielles qui sont posées lors du montage du projet. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions sur d'autres rapports ou sur celui-là?
Je n'ai pas fini, monsieur le maire, moi, ce que je vous dérange, mais je n'ai pas fini.
Pardon ?
Je n'ai pas fini, à moins que je vous dérange, mais je n'ai
pas fini. Monsieur Pesguy, non seulement vous ne me dérangez pas, ça me fait plaisir d'être assis avec vous à la table du conseil municipal.
Quel honneur. Vous avez mis en place pendant la première partie du confinement, on va dire pendant le mois de mars-avril, un système de ramassage de déchets verts en porte-à-porte. Qu'en est-il aujourd'hui ? Puisque je pense que quand on regarde les chiffres de TPM, c'est aussi un axe de progrès. Donc est-ce que vous pensez faire comme... je ne vais pas dire la quasi-totalité, mais il y a quand même au moins 70% des communes de la métropole qui le font, de mettre en place ce service qui, à notre sens, serait une des réponses à ce tri, une des réponses de service au Pradetan, puisqu'on parle toujours des Pradetans et de leur rendre service. Je pense que ça serait important de mettre en place ce service. Au niveau du ramassage, puisqu'on parle aussi d'amélioration donc des déchets ménagers, ne serait-il pas envisageable de cumuler le ramassage des verres et des papiers? Parce qu'aujourd'hui, vous avez comment ça s'appelle, les plastiques, pardon, et les papiers, pour faire en sorte que le tri ne se fasse pas en amont, c'est-à-dire au niveau du premier temps, mais se fasse en aval au niveau de l'entreprise, donc au niveau de la personne qui recycle. Ça permettrait peut-être d'avoir des gains de coûts au niveau de ce ramassage, et peut-être un peu plus simple dans l'esprit des gens de ne pas savoir à toujours se poser la question, c'est quel jour pour le papier, c'est quel jour pour les bouteilles plastiques. Voilà. Et j'aurais d'autres questions sur le reste.
Allez-y, posez-les, je vous écoute.
Donc juste, bon, alors ça c'est anecdotique, ça fait plaisir à M. Plab. C'est page 29 de la convention, il est marqué que la société APA Propreté fait le nettoyage des bacs de la garde, alors qu'en Passis, ils font le nettoyage des bacs du Pradé. Il y a peut-être une confusion, donc à vérifier, parce que c'est pas cohérent dans les deux pages. Concernant le 29, nous n'avons rien à dire. Concernant le 30, j'ai relevé que dans le cadre du rapport annuel, il était indiqué, page 39, une mise en place de fonds de concours pour les travaux d'effacement des réseaux électriques avec TPM pour la commune du Pradé. Alors j'ai le numéro de dossier, si ça vous intéresse, mais je pense que ce n'est pas le propos. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur votre politique là-dedans? Sur le 31, nous n'avons rien à demander. Et par contre, sur le 32, donc, il y a un tableau qui est page 21, qui parle des recettes. Bon, je pense que c'est juste une retranscription, mais il y a un bar graphe avec marqué série 1, série 2, série 3, et ça ne veut rien dire, donc on ne sait pas à quoi correspond ce tableau, donc j'aurais bien aimé le savoir. Combien de repas sur la commune et quel secteur? C'est aussi important de voir un petit peu. Et la question qui nous paraît essentielle aussi, c'est de savoir s'il y a une enquête de satisfaction qui est faite auprès des personnes, enfants, personnes âgées, qui bénéficient de ce service, voir un petit peu un retour sur expérience de la qualité de repas, de tout ça. Voilà, j'ai fini mes questions dérangeantes ou désobligeantes.
Oui, alors rapidement, sur les déchets, il y a toujours des axes d'amélioration. Donc aujourd'hui, on travaille sur le projet de ressourcerie, qui est un projet essentiel et structurant pour la commune. J'en fais pas la publicité, j'en fais je communique sur les projets. On m'a reproché tout à l'heure de ne pas parler de ce qu'on faisait. Je parle de ce qu'on a en projet. Vous ne pouvez pas me reprocher à la fois le tout et son contraire. Donc je vous informe, ce n'est pas la première fois qu'il y a une belle ressourcerie qui va se construire au Pradé, qu'on va faire partie des premières ressourceries de France. Je pense que c'est une fierté pour la métropole et pour le Pradé. Ensuite, oui, on peut toujours améliorer le fonctionnement et le recyclage des déchets. On y travaille. Papier-carton, je pense que ça resterait une filière papier et une filière verre, une filière carton, c'est comme ça. C'est dû à la façon dont sont montés les marchés. C'est comme ça aujourd'hui. Si les gens qui s'occupent de ça à la métropole pensent qu'il y a des leviers d'amélioration à la fois en termes de services et en termes d'économie, ils le feront. Nous, on est plutôt en recherche de plus d'efficacité, plus de services. Donc, on y travaille. La tournée de déchets verts, c'est quelque chose qu'on a déjà remonté à la métropole. On leur avait dit que ça s'était effectivement extrêmement bien passé durant le confinement, et on leur a posé la question de savoir s'il y avait possibilité de mettre en place une tournée de déchets verts, à quel prix, à quel rythme. Donc c'est en discussion, on travaille avec la métropole sur ce sujet. Ensuite, il y avait des questions sur le cirque. Je laisserai peut-être Stéphanie parler du sujet du cirque en particulier. Je pense qu'elle assiste à tous les conseils d'administration, elle pourra vous répondre dans le détail. Il y avait une question sur le fonds de concours de la mairie vers la métropole pour l'enfouissement de lignes, c'est ça?
Non, c'est les fonds de concours du CIEM et l'ECVAR en direction de la métropole concernant l'enfouissement des réseaux.
Général Brosset, je pense. Hein.
Je ne sais pas, j'ai le numéro de dossier, mais
je
n'ai pas...
Ben oui, je pense que c'est ça, parce qu'en fait, quand je vous ai parlé du réseau d'assainissement, je sais que vous m'avez écouté avec beaucoup d'intérêt tout à l'heure, on vous a dit qu'on allait faire le réseau d'assainissement sur tout Général Brosset, en fait.
Et vous avez même augmenté la capacité des pompes à la station de relevage.
Tout à fait, très bien, monsieur Pézeri. Je vois qu'à la fois j'étais clair dans mes propos et que surtout vous avez écouté avec beaucoup d'attention chacun de mes propos. Et donc, à l'occasion de ces enfouissements de réseau, on a profité, mais ça coûte cher de faire des tranchées, donc plutôt que d'en faire deux, on n'en fait qu'une seule. Et à l'occasion de la réflexion du travaux d'assainissement, on a prévu d'enfouir les réseaux téléphoniques. D'accord. Donc on va enfouir les réseaux téléphoniques au même moment.
Monsieur, comment on vous parle, donc je laisse finir. Non, juste, j'ai oublié de vous poser une question, parce que dans la convention, il est indiqué au niveau de la taxe des ordures ménagères qu'il va y avoir un dispositif de lissage du taux sur les 10 ans. Donc ça rejoint un petit peu la question qui a été posée à Monsieur Végat tout à l'heure sur l'eau. Donc on se situe où? Quel est l'objectif?
Parle de la taxe des ordures ménagères, c'est ça?
Tout à fait, oui, tout à fait.
Alors ça aussi, j'en ai parlé tout à l'heure.
Ah non, je pense
pas. Ah si, monsieur. Alors regardez la bande ensemble.
Vous avez parlé d'assainissement, vous avez parlé de l'eau et pas de taxe des ordures ménagères.
J'ai un petit doute, mais on va pas se fâcher là-dessus. On a d'autres sujets.
Oh non, il y a d'autres sujets.
N'est-ce pas? Donc, non, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir d'en reparler une deuxième fois. Effectivement, donc le taux de la taxe de la TOM, en fait, hein, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, est plus élevée au Pradé dans les autres communes, mais il y a un lissage qui est prévu, qui était prévu depuis déjà 20 ans, depuis le moment où la compétence a été transférée à l'époque à la communauté d'agglomération, le rattrapage devait déjà se faire, ça n'a jamais été fait. Donc on a, depuis 2 ans, j'ai quand même appuyé sur le fait que ce serait bien que tout le monde s'y mette, et c'est le cas, maintenant il y a un rattrapage, ça va prendre 10 ans. Donc dans 10 ans, toutes les communes paieront le même taux.
Donc, merci, et juste un dernier point, j'ai oublié tout à l'heure de vous signaler, il y a un projet de loi au niveau de l'Assemblée qui est censé proroger l'année 2025 pour la création de logements sociaux. Donc rassurez-vous, peut-être que vous aurez à construire, mais dans un plus long terme.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Très bien. Alors, il y avait des décisions en communication. Donc, est-ce que vous avez pris... Monsieur Pedri,
je vais être embêtant, vous avez...
On n'a pas répondu tout à fait. J'ai cru que j'allais pouvoir y échapper, mais non. Madame Stéphanie Assionne, s'il vous plaît.
Alors, bonjour, mesdames et messieurs les élus. Pour reprendre un petit peu le fond du rapport d'activité tel que vous le mentionnez sur le graphique... En fait, il y a une évolution qui est plutôt stable en termes de repas qui sont livrés à la commune, avec une moyenne de 39 000 repas sur l'année 2019.
Je prie m'excuser, mais le problème... Après,
c'est sur le graphique.
Je suis pas 2.0, comme a dit Monsieur le maire, mais en graphique, j'arrive encore à interpréter. Mais vous avez marqué série 1, série 2, série 3.
Alors, c'est pas moi qui l'ai marqué.
Non, mais quand je dis vous avez marqué, c'est vous avez inscrit, dans le document, il est inscrit que, et quand on recherche dans le document, en aucun cas, on ne fait référence à ce que veut dire série 1, série 2,
oui.
Série 3.
Je demanderai plus de précision, voilà, justement, au niveau du cirque, mais il y a une évolution qui est stable. D'accord. Au niveau des effectifs.
Et concernant l'enquête de satisfaction, est-ce qu'elle est faite ? Est-ce qu'elle est en visite ? Est-ce que c'est un service au bras des temps ?
Alors, c'est un service près des temps dont nous sommes adhérents et pas membres fondateurs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans le fond de ce rapport, il y a une belle avancée, en tout cas dans les, dans les mesures qui sont dictées.
D'accord, merci.
Merci Stéphanie. On a répondu à toutes les questions, je pense, cette fois-ci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je demande de prendre acte que chacun des rapports a été présenté, qu'il y a eu des questions posées sur chacun de ces rapports concernant les différentes structures. Ensuite, il nous reste les décisions en communication. Monsieur Riquelme, vous vouliez prendre la parole ? Un micro pour Monsieur Riquelme.
Oui, ça y est, ça vient. Monsieur le maire, merci. Tout à l'heure, sur la délibération numéro 21 concernant l'opération immobilière, je souhaitais avoir une précision sur le coût de l'opération. La convention que vous apprêtez à signer indique les montants. Vous savez, je vous ai posé cette question, vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous pouvez regarder et m'apporter cette réponse ? Donc, pour faire simple, coût de l'opération 4 100 000, foncier 3 800 000, bâtiment, donc là j'entends par construction du bâtiment, mais ça m'étonne parce que le montant est de 184 000 euros, ça paraît bien entendu très faible, et honoraire 85 000 euros. Donc j'arrive pas à le comprendre.
Alors ce que je vous propose, on va regarder rapidement la déviation, on va regarder dans le détail, on reviendra vers vous par email pour vous détailler l'ensemble d'opérations qui est communiquables. On peut même d'ailleurs communiquer avec vous sur le bilan de l'opération, c'est un document qui est... qui devient un instant T, il n'est pas aujourd'hui, un instant T, c'est un document qui devient public. On sera ravis de vous le présenter au travers de la commission d'aménagement à laquelle vous appartenez, je pense. Vous étiez présent à la dernière commission d'aménagement, j'imagine que vous étiez... Ah, vous n'étiez pas là.
J'attendais cette présentation.
Non, sérieusement, vous engagez...
Monsieur Riquelme. Ça m'étonnait, d'ailleurs.
Monsieur Riquelme, on parle chacun son tour au sein du conseil municipal, ça facilite les échanges. Donc je vous ai laissé parler, maintenant vous laissez parler Monsieur le maire jusqu'au fond. Donc ce que je vous propose, c'est d'assister à la prochaine commission d'aménagement si vos occupations professionnelles vous y autorisent. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez de façon prendre un rendez-vous, on vous verra en plus en particulier pour vous expliquer en détail toutes les questions que vous avez posées. Idéalement, quand on mobilise du personnel et qu'on crée des commissions, idéalement, tout le monde est là, comme ça on peut échanger en équipe et ensemble on est beaucoup plus fort. Si c'est pas possible, on trouvera toujours un petit peu de temps pour vous expliquer les choses, pour vous éclairer sur certains points importants de la commune. En particulier, en ce qui... Oui, Valérie veut répondre peut-être ?
Non, en fait, j'ai pas répondu la première fois parce que j'ai pas bien compris. On vous a donné pour information certains éléments communiqués par le promoteur, mais je vois pas où est le souci, en fait, réellement.
Il n'y a pas de souci, il y a simplement qu'il faut être clair et savoir ce que Monsieur le maire va signer. La convention précise que Monsieur le maire doit signer. En son article 3, il n'y a pas beaucoup d'articles, il n'y en a que quelques-uns. coût de l'opération, c'est des choses importantes, 3,8 millions d'euros de foncier. Bâtiment, 184 000 euros. Je vous demande, est-ce que c'est le coût de construction des bâtiments? Normalement, et j'espère que vous savez ce que monsieur le maire va signer, parce que c'est indiqué noir sur blanc en son article 3, premièrement. Deuxièmement, monsieur le maire, je voudrais répondre à votre petit pic, parce que je l'attendais, ça m'étonnait que ça ne m'était pas encore servi. Donc, je vais vous demander gentiment, parce que moi, je n'avais pas osé le faire, j'attendais justement à la fin du conseil et le faire en dehors de la séance plénière, mais lorsque l'on a des invitations à des réunions dans les horaires qui ne sont pas les horaires, on va dire, qui sont des horaires de travail, à 14h en l'occurrence, pour cette commission d'aménagement, soit on invite les gens suffisamment tôt pour qu'ils aient le temps de s'organiser, soit on programme, comme l'a fait d'ailleurs Mme Gomez, et je l'en remercie, eh bien, tout simplement les commissions à des horaires, c'était 17h je crois, la commission éducation, eh bien, c'était très bien pour que les gens qui travaillent, et j'en fais partie, puissent s'organiser en conséquence. Donc c'est tout simple, faites des commissions aux horaires accessibles pour les gens qui travaillent, parce qu'on a quand même plusieurs commissions hein, avant un conseil municipal, mais généralement on a la date que quelques jours avant, et donc il est très difficile de s'organiser pour les gens qui travaillent. Mais là n'est pas le fond du problème, je voulais juste clarifier ce point-là pour ne pas laisser perdurer voilà, ce petit malentendu, mais revenons sur le sujet, est-ce que vous pouvez tout simplement apporter cette réponse qui devrait être transparente, et les pradétans doivent savoir à quoi correspondent ces chiffres. Je vous en remercie.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand en fait, il y a des opérations qui se passent comme ça, il y a ce qu'on appelle un bilan d'opération. Le promoteur, il fait un bilan d'opération, il achète un terrain à un certain coût, après il y a un coût de construction, et ensuite il y a la partie sociale. Donc, je parle de la libération, je vais revenir sur la libération. Donc, il y a ce qu'on appelle un coût d'opération. Le coût total d'opération, je ne sais pas s'il correspond à ça, il est à 4 millions et quelques là, donc 4 millions 134, c'est le prix de revient prévisionnel, c'est donc bien une prévision. On verra dans le détail ce qu'entend le promoteur par bâtiment, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le prix de revient prévisionnel est de 4 millions 134 000 euros. Au-delà de ça, c'est du prévisionnel. On est dans le domaine de la prévision. Ce que je vous ai proposé tout à l'heure, ça tient toujours. Il y aura un moment un bilan d'opération précis qui va être fait, parce qu'aujourd'hui, on est au stade du recours, on est au stade où le promoteur il a un recours sur son permis de construire. Donc, il y a un bilan d'opération qui va être détaillé, qui va être fait. On vous le mettra à disposition, comme ça, vous pourrez voir dans le détail quel est le coût de la VRD, quel est le coût de la construction. Vous aurez tout dans le détail. C'est un document qui est communicable. Ensuite, la délibération, elle consiste à quoi, en fait? Elle consiste à faire ce qu'on appelle un équilibre d'opération, parce que le bailleur social, il y a un coût de construction global par logement, et ensuite, il y a un coût de cession du social par le promoteur. Donc, en gros, il y a un prix, c'est 1950 euros du mètre carré. C'est le prix dans le Var, c'est comme ça. Et comme le foncier est cher au Pradet et que le coût de construction est parfois aussi plus cher, il y a ce qu'on appelle un déficit d'opération. Donc là, le déficit d'opération a été évalué au montant de la délibération qui a été votée par ceux qui le souhaitaient aujourd'hui, qui est de 320 000 euros, qui donne droit, comme je le répète, à des attributions pour des prédétants. Donc c'est de l'argent qui est dépensé par les prédétants, mais par des prédétants, parce que c'est un quota qui reste un quota communal. Il y a entre 10 et 15 prédétants qui pourront en bénéficier. Donc ça sera notre boulot après derrière, et celui de Magali Vincent en particulier, de faire en sorte que ces 320 000 euros soient bien investis de manière à ce qu'on puisse loger des prédétants avec ces 320 000 euros, c'est en gros 25 000 euros entre 20 et 25 000 euros par logement. Donc ces 320 000 euros vont servir à loger entre 10 et 15 prédétants en travaillant de concert avec la préfecture. Ces délibérations, elles ne portent que sur ça. Donc elles comblent à la fois un déficit d'opération pour le bailleur social qui achète cher du foncier par rapport au coût du foncier au Pradet, et notre subvention permet à la fois d'un point de vue technique de faire basculer cette somme du fonctionnement vers l'investissement, ce qui aide l'épargne de la commune, ce qui nous permet de continuer à investir. Ça, c'est la partie numéro 1. La partie numéro 2, c'est de pouvoir loger des prédétants pour le coup, parce qu'on a un critère d'attribution mairie qui va permettre de loger des prédétants. Voilà, c'est tout, c'est que ça. Et après, sur le montant de l'opération, si ça vous intéresse, on demandera au promoteur le coût d'opération en détail, et on vous communiquera tout ce qui est communicable.
Merci, monsieur le maire.
Allez-y, monsieur.
Merci. Bien sûr que cela m'intéresse, mais ça devrait vous intéresser vous aussi, puisque c'est sur ce montant qu'est calculé justement ce déficit. Vous venez de nous l'expliquer. Donc le 320 000 euros, il est calculé sur cette base-là. À qui on va faire croire que ce bâtiment va coûter 184 000 euros. Et le maire va signer ce document comme ça, sans y réfléchir avant de le signer. Je ne comprends pas. Donc je pense, parce que si ce n'est pas 320 000, c'est peut-être 500 000. Et c'est encore plus intéressant pour le Pradé. Donc à un moment donné, c'est simplement, je demande de la clarification et que l'on réponde précisément à cette question.
Et vous
pense
l'aurez,
que c'est monsieur... intéressant pour vous.
Monsieur Riquem, vous l'aurez. Monsieur Riquem, vous l'aurez. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on signe des subventions. Et nous, on dialogue avec le bailleur social. Lui fait son propre bilan d'opération. Il sait à combien il achète le mètre carré. Il sait combien il achète. Il lui manquait 320 000 euros. L'objet de la délibération, c'est ça, c'est de combler un déficit d'opération par le bailleur social. Vous avez voté contre. Vous défendez votre position, ce qui est normal. Nous, on a voté pour. On pense que ça permet au bailleur social de faire son projet. Ça permet de passer du fonctionnement à l'investissement. Voilà, fin de la polémique. Merci. Voilà. Ensuite, donc, je vous demande de prendre acte que chacun des rapports a été présenté et ont été débattus, ce qui est le cas. On est d'accord. Pas d'objection. Et ensuite, il nous reste les décisions en communication. Est-ce que des questions sur ces décisions en communication? Pas de questions. Pas de points divers. Profitons-en, on est ensemble, on se fait plaisir. Donc, je crois que cette séance du conseil municipal est terminée. Ce que je voudrais, c'est on sait que les conditions sanitaires sont un petit peu difficiles en cette fin d'année. Elles sont moins difficiles qu'en avril, mai, juin, mais elles restent quand même difficiles. Donc, ce que je peux vous souhaiter, c'est de rester en bonne santé. Faites attention à vous, respectez bien les consignes sanitaires. Passez quand même un joyeux Noël en famille, en faisant attention. Passez un joyeux Noël avec vos familles. Nous, en tout cas, on est là. Je crois que nos amis de l'opposition, je crois que Monsieur Joffre, j'aurai le plaisir d'être avec vous sur le chalet mercredi ou jeudi, je ne sais plus trop quand. Jeudi, vous voyez, on aura le plaisir de se revoir. Il faut faire en sorte que nos prélétants passent un bon Noël, que nos commerçants passent un bon prélétant. Et je souhaite à l'ensemble du conseil municipal un joyeux Noël. Et au nom du conseil municipal, je souhaite à tous nos auditeurs, prélétants et autres, un très joyeux Noël 2020. Voilà, et rendez-vous l'année prochaine.